Les médias sont contrôlés pour une partie, soit par la pub, soit par les mêmes groupes. Donc ça monte aussi des fois un problème d'indépendance.
Radio Courtoisie.
Indépendance totale.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite avec Liselotte Dutreuil.
Bonjour à tous, chers auditeurs. Merci d'être avec nous ce matin. J'espère que vous avez passé un bon week-end, je crois, ensoleillé pour les nordistes, mais un peu plus pluvieux au sud. On débute cette semaine dans quelques instants avec Isabelle Surpli. D'ailleurs, bonjour Franck, au passage, quand
oui,
même.
Bonjour, Liselotte.
Le reste de
tous,
l'équipe,
oui.
Magda, Alexandre, qui sont là aussi. Isabelle Surpli nous rejoint dans quelques instants. On parle des municipales, évidemment, avec cette réaction d'une élue de terrain. Pour votre grand entretien, toujours sur les municipales, comprendre le vote des Français. On en parlera donc avec Guillaume Bernard et Guylain Bénessa. On essaiera d'en tirer quelques analyses. Puis pour votre débattons-en, c'est François Bousquet qui sera avec nous. On parlera à nouveau de cette nouvelle France proposée par Jean-Luc Mélenchon et donc ce chaos que veut la gauche. Et puis enfin, pour votre analyse du jour, vous le savez, c'est Régis Le Sommier, Israël-USA, divergence sur les objectifs. Ce sera un entretien mené par Alexandre de Galzin. Mais pour le moment, le bulletin d'actualité, c'est avec Magda Hautefeuille.
Bonjour Liselotte et bonjour à tous. Les résultats des municipales sont tombés. Le taux de participation était autour de 47%, soit plus de 5 points de moins qu'en 2014, une participation qui relativise le poids de certains résultats. Dans les grandes métropoles, la gauche a résisté. À Paris, Emmanuel Grégoire l'emporte avec 51% face à Rachida Dati. À Lyon, Grégory Doucet est réélu avec 50,6% des voix contre Jean-Michel Aulas à 49% qui annonce avoir déposé un recours. Et à Marseille, Benoît Payan a atteint près de 55% face à Franck Alizio. Mais sur le territoire, la droite enregistre plusieurs victoires importantes. Clermont-Ferrand bascule avec Julien Bonny et des grandes villes comme Limoges, Brest ou Tulle, ancien fief de François Hollande, passent également à droite. La gauche perd aussi des positions comme Besançon ou encore Poitiers. Et à Nice, c'est Éric Ciotti qui l'emporte et détrône Christian Estrosi. Le Rassemblement National poursuit aussi sa grande progression territoriale. Jordan Bardella se félicite d'ailleurs de victoires par dizaines et d'un nombre d'élus inédits. Le RN remporte notamment Castres, Carcassonne, Agde, Carpentras ou encore la Seine-sur-Mer et beaucoup d'autres. Malgré tout, le parti a malheureusement échoué dans certaines villes clés comme à Toulon où Laure Lavalette, pourtant en tête au premier tour, est battue au second par la maire sortante José Massi. Finalement, certaines grandes villes restent ancrées à gauche, mais la droite gagne un terrain notable avec une implantation locale qui continue toujours autant de progresser. Écoutons Rachida Dati s'exprimer après sa défaite.
Le poison de la division a produit ses effets. Même si je dois saluer toutes celles et tous ceux qui ont sincèrement appelé à voter pour moi au second tour. Je veux aussi dire à l'équipe sortante avec beaucoup de gravité qu'elle ne pourra pas ignorer les attentes de changement exprimé par plusieurs centaines de milliers de Parisiens. Je veux aussi dire à cette équipe qu'ils devront répondre à l'angoisse des familles devant le scandale des violences sexuelles dans le périscolaire. Avec tous les élus de notre liste, nous exercerons une vigilance de chaque instant pour que des réponses soient apportées, quelles qu'elles soient, sur chaque sujet et à la hauteur des enjeux. Je vous remercie.
C'était Rachida Dati.
Et parlez-nous de la France Insoumise.
La France Insoumise se retrouve avec une poignée de mairies et à Saint-Denis, le nouveau maire Bali Bagayoko a célébré sa victoire en appelant ses partisans à faire du bruit dans une ambiance festive. Mais dès le premier conseil municipal, le ton est monté. La séance a été particulièrement houleuse avec des tensions entre la nouvelle majorité et l'opposition. La fête a donc été courte, un début de mandat marqué par l'agitation plus que par la gestion.
Il eut cru. Et en italien, un référendum sur la justice.
Oui, les Italiens sont attendus aux urnes depuis hier et jusqu'à aujourd'hui pour un référendum sur une réforme judiciaire voulue par la première ministre Giorgia Meloni, que ses opposants dénoncent comme portant atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Le texte prévoit notamment la séparation des carrières entre juges et procureurs, ainsi que des modifications dans l'évaluation des magistrats et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Pour le gouvernement, il s'agit de corriger un système qui est lent, qui présente des dysfonctionnements et des dérives. En face, plusieurs magistrats et partis d'opposition estiment que ces mesures pourraient affaiblir l'indépendance des juges et accroître le contrôle du pouvoir politique sur la justice. Le scrutin est donc très surveillé en Italie, alors que la justice est régulièrement au cœur des tensions politiques. Un vote qui pourrait donc redéfinir l'équilibre entre pouvoir politique et pouvoir judiciaire dans le pays.
Et du côté des États-Unis ?
Eh bien, d'abord à l'international, Cuba se prépare à une éventuelle invasion américaine. Les autorités cubaines assurent que leur armée est toujours prête et parlent d'une dégradation de leur relation avec Washington, même si aucune opération militaire américaine n'a encore été annoncée. Sur le plan intérieur, Donald Trump poursuit le durcissement de sa politique migratoire. Dès lundi, la police de l'immigration, l'ICE, sera déployée dans les aéroports américains pour renforcer les contrôles à l'entrée du territoire. L'objectif est de mieux surveiller les entrées sur le territoire, identifier plus rapidement les personnes en situation irrégulière et de faciliter les procédures d'expulsion. Les États-Unis mettent donc en place des mesures concrètes, aussi bien sur le territoire qu'à ses frontières.
Et vous nous parlez rugby.
Et du côté du sport, à l'occasion du top 14, La Rochelle s'est imposée à domicile ce samedi face à la section paloise 20-6. Une deuxième victoire de suite pour le club.
Merci Magda, et on termine par la météo.
Eh bien aujourd'hui, à nouveau, c'est un temps bien ensoleillé qui est prévu. Un léger voile s'installera dans l'après-midi sur le quart nord-ouest du pays et quelques gouttes sont prévues tout de même dans le Doubs et dans le Jura. Les températures ce matin vont de 8 degrés à Aurillac jusqu'à 13 degrés à Marseille. Cet après-midi, vous aurez 14 à Cherbourg, 16 à Paris, 16 également à Lyon et 18 degrés à Bordeaux. Et en ce lundi 23 mars, nous célébrons Saint-Uribe, Saint-Victorien et Saint-Luc-le-Nouveau.
Merci Magda.
Ligne droite.
Et on poursuit avec le décryptage d'Alexandre de Galzin.
Bonjour Liselotte, bonjour chers auditeurs. Alors, la guerre contre l'État islamique peut sembler pour certains un lointain souvenir. Voilà déjà 7 ans qu'ils ont été vaincus après tout. Mais comme vous le savez, l'entité qu'on appelait autrefois Daesh a fait des petits, des héritiers et des coupables. C'est l'un d'entre eux qui est jugé ces derniers jours aux assises de Paris dans un procès assez particulier puisque le suspect est absent et que les victimes sont anonymes. La raison, c'est que le premier est présumé mort et les secondes craignent encore pour leur vie, bien que deux d'entre elles se soient déplacées tout de même à la capitale le temps du procès. Ce procès, c'est celui des rescapés du génocide des Yézidis. Pour ceux à qui ça ne dirait rien, petit rappel. Alors les Yézidis sont une communauté irakienne ayant pour spécificité d'être polythéiste depuis près de 4000 ans et de vivre majoritairement dans la région du Sinjar. En 2014, Daesh arrive dans la région et provoque la fuite de plus de 400 000 Yézidis. Les hommes restants sont massacrés, les femmes torturées, violées, réduites en esclavage sexuel. Plus de 2500 Yézidis sont toujours portés disparus et pour les femmes, on retrouvait même des annonces immondes du style « échange femme contre père d'Adidas », c'est dire la valeur de ces esclaves. Mais alors, vous vous demandez peut-être ce que l'État français fait donc à tenir un procès sur une si terrible affaire qui s'est passée à quelques 4000 km de chez nous. Eh bien, la personne jugée n'est autre que Sabri Essid, un djihadiste français d'un sacré pédigré, puisqu'il n'est nul autre que le demi-frère de Mohamed Merah. Ayant grandi dans le quartier des Isards, à Toulouse, il est radicalisé par Fabien Klein et Olivier Corel, deux Français de souche convertis à l'islam. Après avoir tenté de rejoindre Al-Qaïda en 2006, il écope de 4 ans de prison et est tranquillement libéré en 2011. Il acclame le geste de son demi-frère Mohamed Merah en 2012, dont il est le mentor, mais n'est pas particulièrement inquiété pour cet hommage, ça serait dommage. Alors, puisqu'il peut se balader, il part en 2014 en Syrie pour rejoindre l'État islamique avec toute sa famille. Selon les informations disponibles, il est possible que Sabri Essid soit mort en 2018, mais aucune preuve n'existe. Cela étant, durant ses 4 années chez les djihadistes, il s'implique dans diverses affaires de massacres, de viols et de tortures envers des femmes yézidis. Pire que cela, Sabri Essid aurait même été la tête pensante du génocide yézidi. Sans doute que ce bon français s'était inspiré en cela par les meilleures méthodes révolutionnaires. Alors que les femmes s'échangeaient contre des paires de chaussures, même chaussures qui étaient pillées lors des émeutes, imaginez donc ce que ce digne représentant de la Nouvelle-France ferait aux femmes françaises. Ce vendredi 20 mars, Sabri Yezid a donc été condamné à la prison à perpétuité pour génocide et crimes contre l'humanité. Au cas où il ne serait pas mort, on l'attend de pied ferme. La France a fait donc par la même occasion un premier pas vers la reconnaissance du génocide yézidi. Et cela, chers auditeurs, c'est du djihadisme français bien de chez nous.
Merci Alexandre.
Ligne droite. Debout les Français.
Et nous retrouvons Isabelle Surpli, conseillère régionale de Loire et conseillère municipale de Saint-Chamond. Bonjour et merci d'être avec nous.
Bonjour, merci de votre invitation encore.
Alors merci d'être avec nous même aussitôt, parce que la soirée d'hier a été mouvementée pour vous, Isabelle Surpli, j'imagine. Vous étiez candidate au municipal donc à Saint-Chamond. Vous êtes donc désormais élue municipale, pas maire néanmoins. Voilà, vous vous êtes retrouvée dans une quadrangulaire qui était quand même marquée très à droite, puisqu'on avait donc d'un côté un pôle LR, on avait un groupe divers droites alliés. Vous étiez plutôt donc sans étiquette, mais néanmoins la voix qui rassemblait le Rassemblement National ou Reconquête. Et donc, en quatrième position, on se retrouvait avec les écologistes qui se démarquent un peu. Comment est-ce que s'est passé donc ce dernier scrutin pour vous, Isabelle Surpli?
Alors, d'abord, je voudrais vous annoncer quelque chose, parce que non seulement je suis conseillère régionale, conseillère municipale, mais je suis conseillère métropolitaine à Saint-Étienne Métropole. Donc, je fais une entrée fracassante à la métropole de Saint-Étienne qui réunit 53 communes. Et ça, c'est une grande première. Et donc, je vole un siège clairement à la majorité, et je ne vous cache pas ma joie, on a fait la pampille hier soir, et oui, c'est un peu tôt, mais j'ai plein de choses à vous raconter.
Ouais, on a hâte d'entendre ça. Alors justement, quel serait votre rôle comme conseillère à la métropole?
Alors bon, d'abord il y a le groupe à 4, on passe de, bon j'étais un peu seule dans l'opposition, on passe à 4. L'analyse qu'il faut faire, c'est que la majorité municipale qui rentre a perdu des sièges. L'opposition qui se disait de droite perd des sièges, la gauche est hyper distancée. Donc moi, j'entre au conseil métropolitain. Ça veut dire que, en fait, si vous voulez, pour ceux qui ne connaissent pas forcément les finesses du système, c'est la parallèle, vraiment, c'est une assemblée délibérante qui est parallèle à la municipalité, sauf qu'en fait, elle regroupe 53 communes. Donc c'est une assemblée délibérante qui va fonctionner de la même manière, on va pouvoir faire des groupes, on va pouvoir s'allier. On va pouvoir être stratège et enfin faire de la politique sur des compétences qui sont hyper importantes. Donc, je rappelle, la métropole, c'est gestion des déchets, gestion des eaux usées, gestion voirie, également urbanisme, logements sociaux, etc., etc., aménagement du territoire. Donc, moi, je suis mais vraiment refaite de mettre un pied là-dedans, parce que c'est des budgets à plusieurs millions d'euros, évidemment, plusieurs dizaines de millions d'euros par an. C'est là où le pouvoir se joue. Et franchement, je pense que, enfin, c'est pas que je pense, c'est que je les ai vus être vraiment dégoûtés. C'est marrant que nous puissions faire une entrée là-dedans, quoi.
Oui. Et donc, avec toutes les compétences dont vous nous parlez, on comprend qu'en plus, ce sont des décisions qui vont avoir un impact direct, justement, sur la vie des habitants de Saint-Chamond, donc de la métropole de Saint-Étienne. Mais on est dans le concret, et j'imagine que vous avez la sensation que vous allez pouvoir réellement améliorer la vie des gens.
C'est-à-dire que la première chose qu'on va demander après l'installation du conseil métropolitain, c'est la suppression du QR code pour rentrer dans la déchetterie. C'est la « je veux suspendre les 18 millions d'euros que s'est voté le bailleur social pour rénover ses propres bureaux », alors qu'en fait, on a besoin de rénover tous les logements sociaux. Moi, j'ai vu des gens, j'ai vu des couramiaux notamment vivre dans des logements sociaux qui sont d'une misère et d'une insalubrité indigne. Donc voilà, j'ai l'impression que ça y est, on va pouvoir peser. Je vois que Corentin Jousserand a fini deuxième à Saint-Étienne avec la liste Rassemblement National. Et Dieu sait que la campagne n'a pas été simple jusqu'au jour du scrutin. D'ailleurs, je l'embrasse, je le félicite. Voilà, il y a pas mal de... Moi, je m'entends avec beaucoup de maires sans étiquette qui ont été réélus au premier tour, qui ont voilà, cette sensibilité de vouloir faire pour les habitants et pas pour sa propre place au soleil. Et oui, on va pouvoir s'entendre, ça c'est vraiment chouette.
Oui, mais c'est tout ce qu'on vous souhaite. On voit quand même une percée du camp national donc à toute l'échelle du pays, encore plus, donc vous nous le dites, enfin, spécifiquement en l'occurrence, à Saint-Étienne. Est-ce que ça vous donne espoir aussi pour la suite de peser justement sur cette gauche ? Parce que vous l'avez dit, ça va aussi être le moment d'être stratège, de faire de la politique. Il y a quand même ces jeux d'alliance qui vont rentrer en compte. Donc, si je devais modérer un peu, je pourrais vous dire, bon, d'accord, vous êtes en place, mais maintenant, il va quand même falloir faire face à ce monstre administratif, à ces alliances, notamment de la part de la gauche. Comment est-ce que vous appréhendez tout ça ?
En fait, le discours que j'ai tenu et que je tiens depuis toujours à mes équipes, c'est qu'une élection en chasse une autre. Parce que tout se tient dans le millefeuille administratif. Donc, l'année prochaine, il va y avoir les présidentielles, puis les législatives. Et l'année d'après, les départementales, en même temps que les régionales. Et l'année encore d'après, les sénatoriales. Donc, il faut être maintenant malin. Et l'alliance que j'ai tentée, qui n'a pas abouti, montre bien qu'il y a des personnes... C'est bien, ça fait tomber les masques. Il y a des personnes qui font des vendettas personnelles, qui n'en ont rien à faire du bien-être des habitants, et d'autres qui veulent aller plus loin. Moi, ça fait donc 6 ans que j'ai été seule. Je monte un groupe à 4 maintenant. Je suis présidente de groupe. Moi, je l'ai vu hier, 4 fois plus de surplis. Ils sont vraiment pas sereins. C'est-à-dire qu'il y avait une adjointe qui disait « On gagne avec 42, c'est pas bon. » Elle disait « Elle en a 4. Elle en a 4. » Et voyez, nous étions les seuls, autre signe tangible, on était les seuls en mairie à être présents parce que ça se fait. C'est-à-dire, nous, on va devoir composer avec tout le monde. La majorité sortante re-rentre. Donc, on est allé les saluer, les féliciter. Saluer les services, les remercier, parce que c'est eux hein, derrière tout ça qui font tourner la boutique. On était les seuls, donc on va devenir nécessairement la première force d'opposition. Ensuite, ce qu'il faut bien voir dans le mandat qui va arriver, c'est qu'il va y avoir les affaires, les enquêtes sont en cours, qui vont fragiliser justement cette majorité municipale. J'ai des travaux que je n'ai pas encore révélés, qui vont sortir, donc... Moi, j'ai vraiment cette gagne et vraiment, hier soir, j'étais hyper heureuse parce qu'il y a des gens qui sont déçus, mais en fait, c'est une progression historique. Je fais plus 150% des voix, toute seule sans étiquette, quoi. Je veux dire, on est à plus de 2200 voix à nous tout seuls et ça veut dire qu'on a convaincu nous tout seuls sans aide d'appareil politique qui pèse, sans le logo. Donc non, on passe de 900 voix à 2200 voix en 6 ans, et c'est exponentiel parce que je multiplie par 2 mon nombre d'élus. Le prochain coup, comme dit Jordan, le prochain coup, c'est la bonne. Non, mais il faut toujours y aller. Si vous voulez, il y a une chose que je voudrais ajouter qui est importante. À Saint-Chamond, entre le premier et le deuxième tour, on perd 1 point de participation. Moi, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Ça veut dire qu'il y a un dégoût et un écœurement. C'est-à-dire que les tractations de mes collègues là n'ont pas forcément fonctionné. Et ça veut dire qu'on a à aller chercher ces gens pour leur dire « Nous, on va rester. Nous, on va faire ce qu'on a dit. Et on va vous montrer que faire de la politique autrement que depuis ces dinosaures qui font ça depuis 40 ans, qui vous proposent A et à la fin, vous avez Z, et ben c'est terminé. » Donc voilà, moi, je peux déjà vous dire que j'avais été, démarché par un élu qui est dans la majorité aujourd'hui et qui voulait être à la métropole. C'est l'ancien patron du MEDEF 42, Benoît Fabre. Bon, je vois que sa tractation n'a pas fonctionné. Il n'est aujourd'hui visiblement pas élu à la métropole. Je lui pose la question. Est-ce que vous restez ? Enfin, est-ce que tu restes ? Parce que dans la réalité, tout ça n'est qu'un jeu de dupes et on se connaît très bien. Mais moi, je vais dévoiler tout ça, vous voyez ? On va arrêter de faire de la politique comme il faisait avant. On est en 2026 aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et les nouvelles techniques de communication. On va tout dévoiler.
Bah écoute, nous, on suivra justement ces masques que vous espérez faire tomber, Isabelle Surplis. Est-ce que, on l'a dit quand même, c'était des municipales qui étaient marquées assez à droite à Saint-Chamond. Est-ce que vous regrettez un manque d'alliance ? Est-ce que vous auriez aimé porter justement cette étiquette d'union des droites au-delà des électeurs qui étaient plutôt de sensibilité Rassemblement National ou Reconquête ?
Non, je regrette vraiment pas le départ sans étiquette, parce que sur ma liste, en fait, j'ai des gens, d'ailleurs ils restent, mais j'ai des gens extraordinaires qui ont besoin, sur cet ancrage local, de partir sur un socle rassembleur. Donc j'avais des colistiers, qui avaient l'étiquette RN, des colistiers qui avaient l'étiquette Reconquête, des colistiers qui étaient adhérents idéal chez Marion Maréchal, des colistiers qui étaient chez UDR, mon numéro 2, Stéphane Parrain, et chez Éric Ciotti. Et j'avais des colistiers qui ne s'étaient jamais encartés et qui ne voulaient pas. Parce que les municipales, je leur ai dit, c'est un projet qui est ultra local. Alors, on a évidemment des ponts communs avec la droite nationale. Et ça, je l'assume entièrement. Je viens du Rassemblement national et de chez Reconquête et de cette formation de la droite nationale patriote. Et en fait, c'est ce qui nous rassemble à Saint-Chamond. C'est cet amour du pays, cet amour. Et en fait, c'est une préparation pour 2027. Là, on a préparé l'alternance pour 2027. Et il faut vraiment garder ça à l'esprit. Donc, sans aucun regret, il faut avancer.
Ouais, mais on voit qu'effectivement, ces maires sans étiquette occupent quand même une grande partie du territoire français. Et beaucoup d'entre eux sont justement de ce camp national, même sans être affiliés.
La Loire, notamment.
Isabelle Surplis, vous vouliez créer un pôle d'excellence des métiers de l'industrie. Oui. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que vous allez pouvoir avancer sur ce projet? Ou est-ce que, en étant conseillère municipale, vous craignez de ne pas avoir la force d'imposer justement ces idées, de vous heurter à beaucoup d'idéologies aussi en face? Parce qu'on le sait, vos projets pourraient être merveilleux, mais quand le poids de l'idéologie et des guerres de chapelle s'en mêlent, c'est parfois difficile d'avancer dans le bon sens.
Dans le bon sens, trop mignon, c'était le nom de ma liste. Alors, ce qui va se passer pendant 6 ans, c'est que je vais être force de proposition, comme je l'ai fait les 6 dernières années. Les 6 dernières années, j'ai remporté 2 victoires, notamment le parrainage d'un soldat arménien qui, par la suite, a été libéré. Aujourd'hui, on a eu un programme qui a fait 107 propositions, 107 mesures, 107 projets. Le but pendant 6 ans, pardon, excusez-moi, la pampille, le but pendant 6 ans, ça va être de faire avancer point par point. Le problème, c'est qu'on ne réglera rien s'il n'y a pas de fermeté sécuritaire, s'il n'y a pas de propreté dans les rues et s'il n'y a pas d'assainissement dans les finances. Alors moi, j'aime bien votre question parce que nous avons jusqu'au 30 avril 2026 pour installer le Conseil, voter le débat d'orientation budgétaire, c'est-à-dire les intentions de la majorité sur les dépenses publiques, et voter le budget, sachant qu'entre les 2 dernières étapes, il doit y avoir 12 jours d'écart. Donc, ça va être extrêmement intense. Nous serons force de proposition et de toute façon, tous les projets que j'avais pour Saint-Chamond restent. D'ailleurs, c'est rigolo, j'avais relu le programme de 2020 et sans le savoir inconsciemment, je reste mais dans le même cadre, dans la même ligne. Donc, oui, le but, c'est qu'à 4, les 4 fantastiques, je les appelle parce qu'ils sont, fous de me suivre. Ils sont tellement dévoués à la cause. C'est de remporter des victoires et de montrer qu'on n'est pas dans l'opposition pour s'opposer. Enfin, moi, cette opposition débile me fatigue. On est dans une opposition qui va être constructive et ambitieuse. Et c'est-à-dire que tout ce qu'ils refuseront, je le remettrai dans mon programme. Et j'ai dit à la presse hier, la campagne de 2033 commence maintenant. Alors, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, ah bon, vous repartez? Je dis, mais évidemment, on n'a pas fait tout ça pour ça. Pour rien. Enfin, je veux dire, la vie, c'est construire et puis c'est avancer. Celui qui n'a pas ça en tête, c'est qu'il ment à ses électeurs.
Isabelle Surplis annonce à notre antenne être candidate pour les prochaines municipales. Merci beaucoup, Isabelle Surplis. Et puis surtout, voilà, on imagine que tous ces projets que vous allez proposer, eh bien, si jamais ils sont refusés par la majorité, vous ne manquerez pas de le faire savoir aux électeurs aussi, qu'ils sachent ce qui a été refusé en leur nom et encore une fois pour des guerres de chapelle. Donc on imagine que quand même tout le monde réussira à travailler ensemble et puis dans tous les cas, on suivra le résultat de vos travaux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous remercie aussi pour votre énergie. Et puis, je vous souhaite bon courage.
J'ai de la chance que j'ai de la voix ce matin. Ouais,
bon. Merci beaucoup, Isabelle Surplis.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite avec Liselotte Dutreuil.
Bonjour et merci, chers auditeurs, d'être avec nous ce matin. Nous recevons tout de suite Guillaume Bernard et Guylain Bénessa pour analyser le résultat de ces municipales et comprendre le vote des Français.
Ligne droite. Le grand entretien.
Nous sommes donc avec Guillaume Bernard, historien du droit, politologue, maître de conférences, ainsi que Guylain Bénessa, docteur en droit public, avocat, philosophe, enseignant à l'Université de Strasbourg et auteur également de divers ouvrages, notamment « Nos vrais maîtres, histoire secrète des hommes qui vendent la France à l'UE ». C'était dernièrement, on l'a d'ailleurs reçu à ce propos, vous pouvez retrouver l'entretien sur YouTube, chers auditeurs. Bonjour Guillaume Bernard, bonjour Guylain Bénessa, merci d'être avec nous ce matin. Est-ce que vous nous entendez bien?
Parfaitement pour ma part.
Idem, rien à dire, dis d'autres.
Merveilleux, ben, on vous entend très bien aussi. Et donc, on a hâte surtout d'entendre votre analyse de ces municipales 2026. On peut commencer avec un constat qui n'est pas le plus réjouissant, mais bon, qui est quand même une belle porte d'entrée. C'est cette façon dont la gauche conserve quand même une majorité de grandes métropoles. Et c'est assez intéressant puisque ça révèle quand même une certaine fracture sur le territoire français. Guillaume Bernard, est-ce qu'on pourrait commencer par là ?
Oui, oui, on peut parfaitement commencer par ça. Il est quand même très important de noter qu'il y a un très fort taux d'abstention et en parallèle, il y a un éparpillement des votes, ce qui fait que ces municipales 2026 ne donnent pas de tendance lourde, comme on a pu en avoir, par exemple, en 1977, des municipales qui avaient annoncé la victoire de François Mitterrand en 1981. Là, on a des municipales qui confirment grosso modo, je dirais, le paysage politique français. Donc, les cartes ne sont pas véritablement rebattues. On a, si je devais résumer, une progression du RN et de l'UDR, mais essentiellement hormis Nice, dans les petites villes. On a une droite qui se maintient, je dirais, dans le tissu social français, avec beaucoup d'élus divers droites, quelques-uns qui sont LR, mais qui doit un certain nombre de victoires, semble-t-il, très clairement, plutôt à un refus, à un vote de refus des alliances à gauche où il y avait notamment LFI. Et puis une gauche qui, effectivement, se maintient dans les grandes métropoles, mais une gauche qui connaît une division interne, des rapports de force internes très forts. Parce qu'on le voit, par exemple, LFI conquiert un certain nombre de villes, mais essentiellement au détriment d'autres partis de gauche. Donc, je dirais qu'au final, on a deux cassures. Une cassure géographique, c'est-à-dire les métropoles et leurs banlieues, grosso modo ceux qui profitent de la mondialisation, qui veulent de la mondialisation, et de l'autre côté, la France périphérique des petites villes et du rural, qui refusent ou qui pâtissent de la mondialisation. Et puis deuxièmement, une autre cassure, la cassure sociologique, c'est-à-dire eh bien, ceux qui font un vote politique, quelles que soient, je dirais, les idéologies, mais notamment le vote national, hein, le vote en faveur du RN, de l'UDR, mais aussi, on pourra peut-être le noter dans l'émission, un certain nombre de listes indépendantes qui réussissent de très bons scores et qui sont du camp national populiste. Et puis de l'autre côté, des votes communautaristes ou communautarisés, c'est-à-dire très clairement, effectivement, les bobos, les femmes, et puis évidemment un vote dans les banlieues, un vote d'origine immigrée qui a été dragué par Jean-Luc Mélenchon et sa stratégie, eh bien, a l'air effectivement de fonctionner. Voilà les grandes lignes, à mon sens, je dirais, de ces élections. Encore une fois, on n'a pas de tendance lourde ou suffisamment lourde pour dire que ces municipales annoncent très clairement un résultat pour la prochaine présidentielle. On va avoir à peu près les mêmes ingrédients que ceux que l'on a eu lors, par exemple, des législatives de 2024.
Alors, Guylain Bénessa, même question. Et puis, donc très intéressant ce point, hein, parce qu'effectivement, ces élections étaient annoncées comme une espèce de test pour 2027. En réalité, moi, j'écoutais la réaction de Gabriel Attal hier qui se réjouissait d'avoir beaucoup de conseillers municipaux. En revanche, c'est vrai que du côté des mairies des maires, là, c'est un petit peu moins probant. Alors, il ne va pas l'annoncer comme ça. Mais donc, pas de grande tendance pour 2027. Peut-être, si ce n'est quand même, ce dégoût de la Macronie.
Voilà. Oui, quand même. Justement, Lisette, je voulais le dire, c'est que il y a deux, je dirais deux choses quand même, tout de même deux petits enseignements, mais je suis tout à fait d'accord avec Guillaume Bernard. À part la fracturation générale qui est confirmée, c'est-à-dire en fait le chaos un peu et le désordre qui se voit à l'Assemblée nationale depuis la dissolution, c'est-à-dire qu'on retrouve une difficulté à mettre de l'ordre dans un paysage illisible, d'accord ? Donc c'est difficile. C'est vrai qu'hier soir j'entendais les uns et les autres j'ai gagné. Par-delà le petit jeu politicien ou politicien, comme disait De Gaulle, je crois surtout que là il faut raison garder. Il est difficile de savoir qui a gagné. Maintenant il y a deux enseignements. Je suis d'accord avec vous, Liselotte. Premièrement, plus vous êtes proche de la Macronie, plus vous perdez. Alors je vais un peu vite, mais tout de même, la défaite, j'ai l'impression pour l'instant, on n'en a pas beaucoup discuté, ou en tout cas, elle est passée un petit peu par perte et profit avec cette soirée électorale, la défaite de François Bayrou. C'est-à-dire le Bayrou qui est quand même l'historique de la ville de Pau, François Bayrou qui était Premier ministre il y a peu de temps, François Bayrou qui quand même occupait, c'était le dernier phare d'une Macronie qui cherchait un remplaçant et un allié de premier choix avant qu'on bascule chez Le Cornu il y a peu de temps. Donc ce François Bayrou-là, c'est terminé pour lui à Pau. Je suppose que sa carrière politique touche, on peut le dire, presque à sa fin. Je pense quand même qu'on arrive là sur la fin du bayrouisme, si tant est que ça ait vraiment existé. Enfin bon, bref. Passons. Et deuxième élément quand même, je trouve, qui est intéressant, c'est sur les écologistes. Et ça traduit une vraie question sociologique très intéressante, je trouve. En fait, lorsque vous êtes dans des très grandes villes, donc Paris, Lyon, les écologistes conservent leurs acquis de 2020, d'accord, qui était la fameuse question que tout le monde se posait en 2020. Est-ce que finalement le vote écolo et le raz-de-marée, entre guillemets, écolo est un feu de paille ou non? Il ne l'est pas dans les grandes villes, d'accord, même avec des bilans qui sont discutables, les écologistes restent là dans des très grandes villes françaises. Et par contre, quand on bascule dans des grandes villes, mais qui sont, comment dire, moins grosses que les autres, moins grandes que les autres, je pense notamment à Strasbourg chez moi, hein, c'est pour ça que j'en parle, mais pas que Strasbourg, je pense à Bordeaux, avec la défaite de Pierre Urnic, on constate quand même qu'il y a un reflux des écologistes qui, pour certaines parts de leurs électeurs, retournent au bercail PS, un vieux PS un peu plus à l'ancienne. Donc, cette espèce de petit reflux écolo me paraît pas inintéressant, mais en même temps, il me paraît intéressant de constater, je suis désolé, prenons une seconde Paris, si vous me permettez, pour terminer ce bref échantillon. Paris, c'est très rapide, mais si on prend l'électorat désormais d'Emmanuel Grégoire allié avec tous les autres, hein, les socialistes, etc., etc., Anne Hidalgo, enfin, les restes du hidalguisme parisien, plus Sophia Chikirou de la France Insoumise, on a quand même Paris à 63-64% des électeurs qui ont voté à gauche, ce qui veut dire que plus on monte, plus ça vote à gauche écolo, donc l'écologie punitive n'est pas morte, mais elle tend à refluer dans les villes moyennes et les grandes villes, mais dans les très grandes villes, elle conserve ses fiefs. Il faut le dire, c'est quand même intéressant, ça signifie qu'il y a quelque chose sur l'électorat, la sociologie et donc la présidentielle qui va jouer dans un échantillonnage. Finalement, il y a un chaos français qui traduit la grande différence entre les zones urbaines et périurbaines et périphériques. La France de la mondialisation, effectivement, qui soi-disant des gagnants de la mondialisation ou des déclassés qui croient encore gagner. Et la France périphérique et périurbaine qui, elle, pour l'heure, évidemment, n'est pas du côté de la gauche. Et pour une partie, on a ras-le-bol de l'écologie punitive.
Ce qui est intéressant, Guillaume Bernard, je vous voyais approuver de la tête à ce que disait Guylain Bénessa, c'est qu'effectivement, on voit encore ce jeu des étiquettes, des alliances dans les grandes villes, là où en France périphérique, quand on essaie de regarder un petit peu l'ensemble, la grande victoire, c'est celle de ces maires sans étiquette, justement, qui pour beaucoup d'ailleurs sont de tendance patriote, je vais dire ça pour regrouper le plus grand nombre. Et on a ce retour de la politique de terrain qui se détache de ces jeux de politiciens et qui veut retrouver une forme de réel.
Oui, vous avez raison. Je dirais que c'est quand même relativement habituel qu'à des municipales, il y ait beaucoup de listes et de maires qui soient divers droite ou divers gauche et qui ne soient pas forcément estampillés d'une force politique nationale, même si par ailleurs, effectivement, on peut quand même les classer sur le spectre politique. De manière globale, effectivement, on a plutôt un tissu social dans la France périphérique, hein, reprenons cette expression, même si je ne suis pas forcément toujours très d'accord avec toute l'analyse sous-jacente, je dirais, de ce concept, mais enfin, c'est une expression qui est remarquablement intelligente et qui traduit quand même évidemment une réalité. Il est clair que dans cette France périphérique, le tissu social est plutôt, on va dire, conservateur. Et donc plutôt de droite, ce qui explique aussi que eh bien ce soit effectivement dans ces lieux-là que le RN engrange un certain nombre de victoires. Je suppose qu'on va en parler, hein. Mais je reviens un instant sur les écologistes. Oui, il est clair que les écologistes sont plutôt dans un recul par rapport à 2020. En 2020, on se posait la question, est-ce que les Verts vont remplacer le Parti socialiste. Là, la question que l'on se pose, c'est est-ce que LFI est en capacité de remplacer toute une partie de la gauche? Les Verts conservent effectivement, c'est très important, et pardon pour la répétition, mais conservent des positions dans les grandes métropoles, alors qu'ils sont censés être le partisan de l'écologie, donc plutôt du rural, dans les grandes métropoles. Et c'est le cas, alors ils perdent Bordeaux, mais ils conservent Lyon, Grenoble. On n'a pas beaucoup parlé de Grenoble hier soir dans les soirées électorales, alors c'est quand même pas inintéressant. Et puis, effectivement, dans des alliances, dans une alliance avec Paris. Oui. Est-ce que vous voulez qu'on... Pardon de faire des tunnels, mais je voudrais quand même...
On a 50 minutes, donc voilà, le but, c'est aussi de pouvoir... proposer une analyse un peu plus profonde que ce qui pourrait se faire par ailleurs. Je pense que les auditeurs le savent et sont là parce qu'ils apprécient ça aussi. Donc, développez si vous voulez un petit peu, Guillaume Bernard.
Alors, merci beaucoup. Je serai peut-être obligé de vous quitter un peu avant la fin de votre émission, car vous savez, j'ai des obligations professionnelles, j'allais dire alimentaires, pas qu'alimentaires, mais j'ai des obligations professionnelles qui m'obligent naturellement à partir relativement tôt. Alors, il est clair que... Le parti politique qui peut le plus raisonnablement dire qu'il a progressé clairement, c'est quand même le Rassemblement national.
Oui.
Hein. D'abord, il a eu au premier tour un certain nombre de maires qui ont été réélus. Il y a donc une normalisation, je dirais, de la gestion RN au niveau local, que ce soit Perpignan ou que ce soit Hénin-Beaumont. Et puis ensuite, il a conquis un certain nombre de villes. Alors là, il faut quand même regarder un peu la géographie. Hein. Carpentras, Tarascon, Agde, Menton, d'ailleurs contre Louis Sarkozy, Carcassonne, Montauban. Bon, c'est le RN du Sud, hein. C'est-à-dire que je pense que les dirigeants du Rassemblement national devraient quand même effectivement regarder là où les électeurs ont le plus facilement basculé en sa faveur, confirmer, je dirais, une certaine adhésion. C'est quand même plutôt le RN, j'allais dire, identitaire, plus que le RN, entre guillemets, socialisant. Alors, je reconnais, et il faut bien sûr le dire, qu'il y a d'autres victoires un peu partout en France, Montargis dans le Loiret, La Flèche dans la Sarthe, Liévin dans le Pas-de-Calais. Mais enfin, là où il y a quand même une vraie concentration des victoires, c'est dans le sud de la France. Ça, c'est quand même un élément, me semble-t-il, relativement intéressant. Et puis, il y a un deuxième élément qui mérite, me semble-t-il, d'être indiqué, c'est que il n'y a pas un total monopole, je dirais, du RN-UDR sur le camp national populiste. Il y a un certain nombre d'endroits où, des alliances, des listes, je dirais, marquées à droite, ont réussi, je dirais, des scores. Hein. Alors, bien sûr, vous en avez parlé sur Radio Courtoisie, c'est à Segré, dans le Maine-et-Loire, Jean-Eudes Gana qui a réussi à faire élire un certain nombre de conseillers municipaux donc dans cette ville. Il n'a pas gagné la ville, mais enfin, malgré la diabolisation qu'il a subie, il a fait un score de 22% et il a donc des conseillers municipaux. Regardez la liste à Dunkerque du RN qui lui a retiré son étiquette, son investiture et qui réussit tout de même un score intéressant. Et puis, il y a aussi des gens qui sont indépendants. Robert Ménard à Béziers est réélu dès le premier tour. Et puis, notez par exemple le cas de Vierzon. À Vierzon, il y a une liste totalement indépendante qui a réuni des gens de droite de différentes sensibilités et qui a gagné la ville, y compris avec des anciens responsables locaux, eh bien des partis très à droite ou des partis ou du Parti national. Et donc il y a, ça n'est que des prémices, mais ça veut dire aussi qu'il n'y a pas un total monopole, du moins au niveau local, du Rassemblement national et de son alliance avec l'UDR sur, je dirais, le camp national populiste. Ça n'est pas inintéressant tout de même de le constater. Et constatons-le pour le coup, aussi géographiquement. C'est-à-dire que le RN, effectivement, est fort dans le nord, dans l'est et encore plus dans le sud. Mais là où il est quasiment inexistant, et c'est quand même là l'une de ses grandes faiblesses, eh bien dans l'ouest, là, ce sont des listes alternatives, des listes indépendantes qui réussissent à progresser et à émerger, voire parfois, effectivement, comme c'est le cas à Vierzon, de conquérir la France, oui. France du centre ou France de l'ouest. C'est pas, ça n'est pas inintéressant. Dernier élément, et je cède la parole, c'est promis, un RN qui progresse, mais qui ne progresse que dans les villes petites et moyennes. C'est-à-dire que c'est le tissu social qui est en grande partie une réalité, mais qui veut dire, ça veut dire aussi qu'il y a une cassure sociologique et géographique et que c'est quand même un assez lourd handicap pour eh bien, le RN pour la prochaine présidentielle, parce que ça veut dire qu'il y a quand même une France qui est divisée en deux, géographiquement et sociologiquement parlant. Et c'est évidemment un handicap pour lui.
Guylain Bénessa, est-ce que vous voulez réagir à ce que nous expliquait Guillaume Bernard?
Alors, je souscris à l'analyse dans sa globalité sur les cartes, la géographie, ça c'est une évidence. Maintenant, c'est une évidence, ça clarifie et ça confirme des tendances, en fait, notamment s'agissant du RN, hein, des tendances qui sont là depuis longtemps. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est les conséquences à la fois sur le paysage médiatique et sur l'avenir de tous ces partis. Je m'explique. Hier soir, ça c'est bien, tout le monde l'a constaté, hier soir, en réalité, les élections n'intéressaient qu'une petite partie des Français, puisqu'énormément de villes, effectivement, vous en parliez, Liselotte, tout à l'heure, qui ont une liste où la France rurale, etc., avait déjà désigné son maire, donc c'était un reste, on va dire, de ce qu'il y avait encore à départager pour ce second tour. Et en fait, ce qui a sauté aux yeux tout de même, et qu'on soit, qu'on le fasse rapidement ou qu'on aille en profondeur dans cette analyse, le RN a ce plafond de verre des grandes villes. Longtemps, d'ailleurs, je pense que ce plafond de verre était vu comme une espèce de sortilège du barrage républicain, quelque chose comme ça. Et je pense plutôt que maintenant, plutôt que ce sortilège du barrage républicain, la question est désormais réglée, c'est un barrage sociologique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de barrage républicain pour constater que dans les villes, il faudrait même... Vous savez que Liselotte, ce qu'il faudrait faire, il faudrait en réalité... Évidemment, on pourra peut-être même en reparler dans les mois à venir, mais il faudrait faire une analyse claire en prenant... Au soir de ce second tour, l'intégralité des villes, vous dressez un portrait, vous prenez le nombre d'habitants et vous regardez en fonction du nombre d'habitants, qu'est-ce qui reste des écologistes, à partir de quand est-ce que le RN recommence à monter? Parce que c'est presque mathématique. Donc hier soir, pourquoi j'en parlais de ça? Parce que ça signifie que lors de cette soirée, le RN représente en tout cas un certain RN, et je suis d'accord avec Guillaume Bernard, il faudrait distinguer le RN du Sud, du RN du Nord, le RN identitaire, du RN socialisant, je suis tout à fait d'accord. Mais il n'empêche... Le RN représente une France des invisibles ou une France invisibilisée, pour prendre un lexique à la mode, à la mode depuis quelque temps. Et en même temps, du coup, le RN va, à mon avis, c'est l'une des leçons qui sera tirée, où on essaiera de dire que le RN n'a pas gagné ses élections municipales, parce que vu que le RN a du mal à rafler les grandes villes, on a le sentiment que le RN est une force de premier tour ou de semi-second tour, si je puis dire. C'est-à-dire que lorsque la cloche le 20h sonne, les grandes villes qui cristallisent les débats, les yeux et les enjeux, ces grandes villes sont une énième fois, entre guillemets, hein, perdues par le RN. Je pense à Toulon où Laure Lavalette fait un gros score, mais elle échoue à 47,5. Je pense à Marseille, où mine de rien, je veux dire, Marseille qui est une ville intéressante. Jean-Claude Gaudin était maire de Marseille il n'y a pas longtemps encore quand même. Hein. Martine Vassal, si j'ai bien retenu les derniers résultats, vous me corrigez, Liselotte, si je dis une bêtise, est à 5 points. Et il me semble Franck Alizio à 41,5, quelque chose comme ça.
Ouais.
Ça signifie que le RN monte, mais un, qu'il perd, et de deux, que le LR est tellement miette que ça signifie que la ville a basculé à gauche, puisque le RN, à mon avis, avant un certain temps, n'arrivera jamais à faire 50% à lui seul dans ce type de ville. Donc le cordon tient. Mais ce que je disais là, c'est que le cordon tient, parce que la sociologie maintenant de ces villes est hostile, non pas tant au RN qui monte, mais hostile à confier les clés au RN. Le RN ne fait pas d'alliance avec les LR, ce qui veut dire qu'au soir de ce second tour, hier soir, hein, on avait le sentiment que le RN était presque en reflux parce qu'il n'arrivait pas à conquérir ces grandes villes, ce qui polarisait l'attention sur le PS. Le PS s'imaginant du coup tirer les marrons du feu simplement parce qu'il n'a pas perdu des villes qui sociologiquement ont basculé à gauche depuis longtemps, mais qui en fait sont tributaires d'alliance avec les écologistes, ce qui donne un paysage morcelé parce qu'à la fois... en termes de vivier, si je puis dire, électoral, et en termes de visibilité sociologique et visibilité médiatique, on a le sentiment que le RN n'a pas gagné ce second tour parce qu'il a quelque chose comme un, comme une, comme un, parce qu'il est tributaire de là où il monte et de là où il est fort et là où il est puissant, et d'ailleurs de plus en plus, qui sont les petites et les moyennes villes. Pourquoi je dis ça ? Parce que je pense que ça clarifie et ça doit amener les caciques de droite comme de gauche à se poser des questions qui sont moins des questions du type « j'ai gagné, je vais à la présidentielle, vous voyez, la France est derrière moi », parce que tout le monde revendique une espèce de morceau de victoire. La question qui se joue vraiment, c'est de savoir où est-ce que le RN peut espérer encore monter pour gagner la présidentielle, et surtout, est-ce que le RN a intérêt à faire ou non des alliances avec les LR, parce que ça les droitiserait ? Est-ce que le RN a vraiment intérêt à des alliances qui, à mon avis, ont du mal à se faire et qui, sociologiquement, dans certaines villes, ne sont pas ? Ou bien à parier absolument sur une ville, sur une France, qui a déjà basculé RN, qui se fout des alliances avec les Républicains, qui est une espèce de vivier naturel parce que le LR, maintenant, le RN, définitivement, j'y arriverai pas. Le RN a déjà ce qu'il faut, si vous voulez, sous la main. Je me pose des questions parce que je trouve que le message est assez brouillé et les appareils sont en train de discuter depuis maintenant un bout de temps et surtout, les stratégies sont à peaufiner parce que, regardez, j'en finis là. Les Républicains ont l'impression de l'avoir remporté parce que, comme par hasard, le socialisme municipal, comme la droite, on va dire, municipale classique, est toujours là. C'est logique d'ailleurs, elle ne reflue pas parce que le clientélisme est là, parce que l'implantation est là, l'enracinement est là. Vous ne balayez pas des gens comme ça. Mais dans tous ces endroits-là, le RN a du mal à monter. Ça veut dire qu'en réalité, je pense à une ville comme celle de Strasbourg. Là, je fais juste un focus une seconde. À Strasbourg, la momie Catherine Trottmann l'a emporté. Je dis volontairement momie, non pas parce que je la déteste, hein, d'ailleurs du tout, j'ai plus l'occasion de la rencontrer il y a quelques années. Je veux dire, c'est une PS, c'est un PS à l'ancienne en quelque sorte, mais Catherine Trottmann, PS, dans les années 90, avait mis en place la mutation de la ville de Strasbourg qui allait devenir la ville écolo de 2020, ce qui veut dire qu'il y a une porosité sociologique extrêmement claire entre le PS et les écologistes à Strasbourg. D'accord, par exemple, la France Insoumise, pour l'instant, n'a pas réussi à reprendre le flambeau avec les écolos à Strasbourg, donc le PS l'a emporté. Il n'empêche, dans ce type de ville, la ghettoisation, si je puis dire, écologiste et socialiste est tellement là. Je ne sais pas ce qu'il y aura à jouer dans la France de demain pour le RN dans ce genre de ville, ce qui veut dire que le RN a tout à faire pour presque profiter, si je puis dire, de cette fracture énorme entre les grandes villes et la France périurbaine ou la France rurale. C'est là certainement que se joue cet électorat-là. Et c'est là où, à mon avis, les fractures qu'on a vues apparaître hier sont intéressantes quand même pour voir où se situera la grande bataille de demain et où est-ce qu'il y a encore des voies à prendre dans cette France extrêmement fracturée entre les riches, les pauvres, les centres-villes et la France rurale. Là, je veux dire, c'est un paysage quand même très éclaté. Et il sera difficile de savoir exactement où faire des alliances et où profiter de cet éclatement.
Alors, Guillaume Bernard, justement, vous travaillez beaucoup sur ces dynamiques à droite. Est-ce que, selon vous, le RN, dans sa logique de dédiabolisation, ne se trompe pas en lorgnant sur ces grandes villes, en essayant de continuer, justement, par exemple, à tendre la main à des LR qui, pourtant, étaient quasiment morts il y a encore quelques mois, années même, et qui semblent un peu ressuscités. Est-ce que, vraiment, l'avenir du RN pourrait, justement, se jouer dans cette France périphérique, est-ce que ça suffirait, par exemple, pour 2027, si jamais ils affirmaient cette fracture avec la France métropolitaine ?
Alors, il y a beaucoup de choses.
Oui,
effectivement.
Je vous charge avant que vous nous quittiez.
Alors, bon, je vais essayer. La France périphérique, c'est 60-65% de la population. Si jamais le RN avait véritablement une position hégémonique dans cette France périphérique, ce qui n'est pas encore le cas, puisqu'il est quasiment absent de l'Ouest, il pourrait effectivement l'emporter. Après, ça n'est jamais très confortable de gouverner avec l'appui d'une partie de la population contre une autre. Bon, moi, vous savez, je suis toujours très dubitatif sur... j'ai été dès le début, et je le reste, dubitatif sur la stratégie dite de dédiabolisation, pour une raison très simple, c'est que... je m'appuie sur l'histoire et je sais très bien que, et nous savons très bien que, eh bien, pour la gauche et fasciste, quiconque n'est pas de gauche. Bon, et on l'a vu encore une fois à ces municipales, on a justifié des alliances à gauche avec LFI pour faire un front antifasciste contre y compris des gens de droite très modérés, comme par exemple à Toulouse. Je crois que le RN progresse non pas à cause de la dédiabolisation, mais en dépit de la dédiabolisation, tout simplement en raison de la dégradation globale de la situation du pays et des Français, à cause de l'insécurité, de l'immigration, de la fiscalisation à outrance, etc. Bon, et donc ça me permet de rebondir sur ce qu'a dit Guilain Benessa, qui me paraît, je dirais, extrêmement important. Oui, évidemment, le PS et LR, la gauche modérée, la gauche social-démocrate et la droite modérée parlementaire, ont un tel tissu social d'élus que ça ne disparaît pas du jour au lendemain. Hein. Après la chute du mur de Berlin, le Parti communiste s'est évidemment effondré. Il avait d'ailleurs commencé à s'effondrer à partir d'une dizaine d'années auparavant, mais il a mis une vingtaine d'années avant de quasiment complètement disparaître. Donc, il est clair que il y a une force d'inertie, je dirais, dans le pays, qui fait que les forces politiques ne disparaissent pas du jour au lendemain. Cela étant dit, il me semble quand même que là où, disons, la droite modérée maintient des positions ou même parfois en gagne, c'est peut-être plus par rejet, par refus, que véritablement par adhésion.
Je vous coupe un instant, Guillaume Bernard, pour rappeler aux auditeurs qui nous rejoindraient en cours de route. Donc déjà, votre nom, Guillaume Bernard, et nous sommes également avec Guilain Benessa. On parle évidemment de ce second scrutin des municipales. Chers auditeurs, si vous avez manqué le début de l'entretien, vous pourrez le retrouver sur YouTube dans le courant de la journée. Pour la suite du programme, on retrouvera Anne Darcy, la présidente de la vente de l'œuvre des campagnes, et puis surtout François Bousquet juste après, pour parler de cette nouvelle France que propose la France Insoumise. Je vous le rappelle, la radio a besoin de vos dons pour pouvoir continuer à émettre.
Oui, Lise-Lotte, vous le savez, vous qui nous écoutez, qui êtes des fidèles, mais ceux qui naîtraient aujourd'hui, comme on dit, ne le savent peut-être pas, Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Vous êtes les seuls financiers de notre radio, nous refusons toutes les ressources publicitaires. Alors si vous voulez aider, si vous pouvez aider Radio Courtoisie, rendez-vous sur soutenir.rc.fr. Un grand merci d'avance.
Merci d'avance et on poursuit donc avec Guilain Benessa et Guillaume Bernard.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Guillaume Bernard, on reprend avec vous, pardonnez-moi de vous avoir coupé.
Pas de souci. Non, je voulais évoquer un certain nombre de villes qui ont été maintenues à droite et au centre-droit et ou gagnées sur la gauche. Brest, Clermont-Ferrand, Limoges, Toulouse, qui a été maintenue au centre-droit, Besançon, qui a été gagnée sur les écologistes. Bon, je ne suis pas certain, contrairement aux caciques de LR, que ce soit véritablement une adhésion pour leur parti politique qui explique ces victoires, mais il me semble qu'il y a aussi, je dirais, une mobilisation de l'électorat modéré contre des listes de gauche qui avaient fait alliance avec LFI. Ce qui fait que je dirais qu'il y a une ambiguïté dans les résultats d'hier soir, c'est-à-dire que l'espace politique de la grande coalition, celle-ci n'a pas disparu, elle n'est évidemment pas aussi aussi forte qu'elle a pu l'être, bien sûr, parce que on est sur la fin de la Macronie, mais pour autant ça ne veut pas dire que cet espace politique est entièrement disparu, dans le sens où il y a eu quand même un certain nombre d'électeurs qui vraisemblablement par rejet d'une union de la gauche incluant LFI, ont préféré voter pour la liste adverse, y compris si c'était une liste de centre-droit ou de droite, une liste LR. Donc la Macronie, elle n'a jamais été très présente au niveau local. Effectivement, on l'a dit, c'est très important, Bayrou perd, à La Roche-sur-Yon, pareil, Luc Boire perd, c'est-à-dire, il n'y a pas véritablement d'adhésion envers cette Macronie. Pour autant, effectivement, dans un certain nombre de circonstances, Bordeaux, Annecy, ou au Havre, eh bien, un certain nombre de candidats tirent leur marron du feu. Et donc, je pense qu'il ne faut pas immédiatement enterrer la grande coalition des modérés sous prétexte que nous sommes dans la fin de la Macronie. Et effectivement, va véritablement à nouveau se poser pour la prochaine échéance électorale la vraie question. Est-ce que le PS la joue à gauche toute? Est-ce que LR préfère une alliance à droite comme l'a fait Ciotti qui a quitté LR, ou est-ce qu'il préfère être l'incarnation de la grande coalition? Voilà, on retrouvera de toute façon régulièrement les mêmes enjeux. J'ai déjà trop parlé, je cède la parole.
Guylain Bénessa, je vous laisse réagir, puis peut-être quelques mots sur cette fracture à gauche avec, c'est vrai, quand même un parti socialiste qui a dû compter sur cette alliance avec la France insoumise pour s'imposer et qui pourrait peut-être en ressortir assez blessé de ce pari.
Alors là, je vous cache pas que je suis extrêmement sceptique. J'entends ça depuis hier soir, que la gauche a fait une erreur et une erreur de tactique en s'associant alors par des alliances, des fusions techniques, comme on l'a dit, avec la France insoumise à droite à gauche. Enfin, à gauche partout, mais à droite à gauche sur le territoire. Là où je suis plus sceptique, c'est que, pour une raison simple, calquer le scrutin municipal sur les présidentielles à venir est une stupidité, pour des raisons à la fois évidemment logiques de sociologie, de je veux dire, on ne peut pas calquer un résultat local sur le national. Et deuxièmement, surtout, parce que, regardez, je prends le cas de Toulouse. Jean-Luc Moudin, je crois, qui est donc le candidat divers droite qui a réussi. Il me semble que c'est un divers droite, hein, si Guillaume Bernard me rectifie si jamais il y a une erreur. Hein. Jean-Luc Moudin donc, l'a emporté contre l'alliance entre le PS et la France insoumise, ce qui veut dire que les électeurs profitaient et avaient à disposition au second tour une bouée de sauvetage, entre guillemets, face à ceux, enfin pour ceux qui étaient sceptiques quant à l'attelage PS-LFI, ils avaient une bouée de sauvetage qui s'appelait Jean-Luc Moudin, c'est-à-dire un modéré qui était là pour rassembler les sceptiques et pour permettre à LR ou les divers droites, on va dire, de l'emporter face à l'alliance PS-LFI. Mais projetons-nous une seule seconde vers un scrutin national, donc évidemment la présidentielle l'année prochaine. L'objectif de la France insoumise, c'est de parvenir au second tour. D'accord, tout le monde l'a compris, et Jean-Luc Mélenchon, qu'on le veuille ou non, c'est le seul patron à gauche. D'ailleurs, hier soir, Olivier Faure, lorsqu'il prend la parole, je pense même que le PS a intérêt à avoir quelqu'un d'autre qu'Olivier Faure le plus vite possible, parce que chaque fois qu'Olivier Faure prend la parole, il ne fait que sentir l'absence du vrai chef à gauche, qu'on le veuille ou non, qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Malgré la mélenchonisation, j'allais dire Retailleau, lorsque Bruno Retailleau a parlé de mélenchonisation hier, il a à nouveau installé le caractère incontournable de Jean-Luc Mélenchon comme étant le héros de la gauche LFISée, qui est à gauche, qui monte malgré les résultats d'hier soir. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'au présidentiel, il n'y aura pas de bouée de sauvetage contre ceux qui sont sceptiques à l'égard de la France insoumise ou de l'attelage. Vous aurez globalement, a priori, si la photographie du jour n'est pas trop fausse, vous aurez d'un côté le RN, option Jordan Bardella, eu égard aux circonstances actuelles que traverse Marine Le Pen. À mon avis, elle est grillée pour la présidentielle, mais bon, on verra avec le judiciaire plus tard. Et en face, donc, vous aurez la gauche, version probablement PS ou LFI, très probablement. Si ça devait se produire, si jamais Renaissance ou la Macronie n'arrivait pas à sortir un Édouard Philippe, ça veut dire que de toute façon, le seul candidat de recours à gauche, ce sera Jean-Luc Mélenchon, s'il est au second tour. Ce qui veut dire que la stratégie de second tour de Mélenchon fait que tous les sceptiques n'auront pas le choix. Soit ils iront chez Mélenchon, soit ils iront et ils n'iront pas chez Marine Le Pen. Ce qui veut dire que Jordan Bardella, Marine Le Pen, peu importe. Ce qui veut dire que le scrutin local, et là je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, la droite modérée conserve ses acquis parce qu'elle profite, à mon avis, de façon temporaire, d'un dégoût d'une certaine partie de la population pour la France hystérique de la France insoumise. Hein. J'enlève le H et je mets un I, mais enfin, on y est. Je mets un H à la place du I, mais on y est un petit peu. La France hystérique n'a pas gagné son pari, mais il n'empêche, cette France insoumise reste la nouvelle France dont parlera François Bousquet tout à l'heure. Cette nouvelle France a vocation à avoir un certain monopole, et cette nouvelle France n'aura pas face à elle une droite modérée a priori au second tour, ce qui veut dire que de toute façon, le pari Mélenchon reste gagnant pour l'heure au niveau national, et le PS parvient à faire croire l'inverse, parce que le PS, je vais vous dire, le PS ne sait plus à quel sein se vouer, si ce n'est à un sein que tout le monde connaît, c'est l'union de la gauche. Donc de toute façon, demain, moi il me paraissait absolument certain, à 20h01, que même ceux qui se disent que l'alliance LFI n'était pas terrible, n'oseront pas dire autre chose dans un an que la vieille stratégie que nous connaissons tous, qui est l'union de la gauche pour les élections, ça ne les empêche pas de divorcer ou de faire croire qu'ils divorcent la minute d'après pour revenir à la grande bataille tous ensemble, là où en face c'est exactement l'inverse. Je pense que ces jeux d'alliance éternelles sont les vraies alliances de fond qui structurent la société française et qui ne s'arrêteront pas demain sous prétexte que 2-3 villes n'ont pas permis au PS de l'emporter avec l'alliance avec la France Insoumise.
Mmh. Guillaume Bernard, peut-être un dernier mot avant que vous ayez à nous quitter.
Il est clair, moi je pense qu'évidemment LFI sort gagnant du, pour l'instant en tout cas, du rapport de force interne à la gauche. D'abord parce que LFI a conquis des villes sur la gauche, Saint-Denis, Roubaix, Creil dans l'Oise, Vénissieux hein, dans le Rhône, et sont des villes qui sont gagnées sur la gauche. Bien. Et non pas des conquêtes sur la droite. Donc c'est un rapport de force interne à la gauche. Il est clair que LFI réussit des scores dans les métropoles et puis dans les banlieues, je dirais, immigrées, enfin disons, ayant un fort taux d'immigration. Donc le vote communautarisé et la stratégie de Jean-Luc Mélenchon fonctionnent. La diabolisation, elle fonctionne plus à l'égard du RN qu'à l'égard de LFI. Maintenant, je peux peut-être en partie diverger, mais il est clair que on est dans la prospective, on n'est pas dans des certitudes. Il y a bien sûr régulièrement dans l'histoire française des unions de la gauche. Plus souvent d'ailleurs que des unions à droite, ça c'est très clair. Et pensons par exemple au Front populaire ou à la victoire ou au programme commun de la gauche. Bon, oui, il est possible que le Parti socialiste se dise qu'il peut tirer ses marrons du feu en s'alliant avec LFI. Maintenant, vous savez bien que les rapports de force sont évidemment extrêmement importants quand François Mitterrand fait le programme commun de la gauche, le Parti communiste est plus puissant que le Parti socialiste et au final, le Parti socialiste réussit à siphonner le Parti communiste. C'est donc, je dirais, il y a aussi donc la question, je dirais, des personnalités hein, qui comptent. Est-ce que qui a le vent en poupe, qui, je dirais, est identifiable, qui a une stature, je dirais, rhétorique et symbolique qui permet de l'emporter. De l'autre côté, évidemment, il y a d'autres périodes au cours desquelles le Parti socialiste eh bien, préfère une alliance au centre. Hein, et c'est toute l'histoire, en particulier, de la 4e République, parce que la grande coalition des modérés, eh bien, on l'a déjà connu sous la 4e République. La SFIO, l'ancêtre du Parti Socialiste, faisait alliance avec le MRP, le mouvement démocrate chrétien, pour ne pas se faire alliance avec le PC, le MRP ne voulant pas faire alliance avec le RPF, le parti gaulliste. Et donc, voilà, la petite musique quand même qu'on a entendue hier soir, c'est que hormis donc, Nantes, je vais oublier les Nantes, Grenoble et Paris, si je Nantes, Grenoble, pardon, et Nantes, Grenoble, et puis oui, j'ai oublié l'autre ville que je devais vous citer, pardon. Donc, hormis ces deux villes où les alliances gauche LFI, eh bien, ont permis de gagner. On a quand même plutôt le sentiment que, comme l'ont dit certains caciques du PS, cette alliance faisait perdre. Et donc, on sent bien quand même qu'il y a une tendance, je dirais, dans la gauche modérée pour essayer de se raccrocher, je dirais, à non pas la Macronie, parce que là, pour le coup, ce serait mortifère, mais je dirais plutôt au centre pour essayer de maintenir la tripartition du spectre politique. Voilà, j'avoue que moi, je ne sais pas ce qu'ils décideront au final de faire, mais il me semble quand même qu'on s'oriente plutôt, c'est une hypothèse, plutôt vers effectivement le maintien de la tripartition du spectre politique et avec un véritable enjeu, pour, je dirais, la grande coalition des modérés, qui est brinque-ballante aujourd'hui, mais qui est susceptible de se reconstituer, la grande question qui sera la désignation d'un candidat pour être au second tour face au Rassemblement national et dépasser donc Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que ce candidat devrait être plutôt de centre-gauche ou compatible avec le centre-gauche, mettons Édouard Philippe, ou est-ce que ça devra être plutôt un candidat plutôt marqué à droite, Bruno Retailleau, ou quelqu'un qui émergerait d'une primaire de la droite à laquelle pourrait éventuellement participer Reconquête. On voit que à nouveau Laurent Wauquiez a évoqué qui avait d'ailleurs poussé Éric Zemmour en 2021 à participer à la primaire de la droite, ce qu'il n'avait finalement pas fait, mais que Laurent Wauquiez renouvelle, je dirais, l'invitation à ce que Reconquête, en l'occurrence Sarah Knafo, fasse partie de cette primaire. Ce qui peut expliquer pourquoi elle se soit retirée au profit de Dati. Quels seront les candidats pour affronter vraisemblablement au deuxième tour un candidat RN, étant entendu que on sait la potentialité de résultat que représente Marine Le Pen, on ne sait pas le résultat réel que ferait Jordan Bardella. Il n'y aura pas une équivalence du résultat, même si les sondages disent cela, mais ça n'est quand même pas évident. On ne sait quand même pas quel serait le résultat réel de Bardella. Est-ce qu'il serait véritablement au second tour comme Marine Le Pen l'a déjà été par deux fois ou pas? Donc voilà, sincèrement, je pense qu'on est dans une situation politique où, on vient d'essayer de l'analyser, on a des fractures dans le pays, sociologique et géographique, et on a quand même un éparpillement des forces politiques. Et quand ces forces politiques ont des victoires, il me semble quand même que c'est plus par rejet des autres que par véritable adhésion, et ce, quelles que soient les forces politiques. À la limite, la seule force qui a une véritable adhésion, je dirais, parce qu'il y a un intérêt derrière et un intérêt communautaire, c'est quand même LFI. Donc je pense qu'il ne faut pas sous-estimer cette force politique-là. Sur un maintien d'une alliance des gauches, y compris LFI, pour la prochaine présidentielle, autant la coagulation des électorats me paraît claire, c'est-à-dire, c'est d'ailleurs ce qu'on a vu hier, c'est-à-dire que ça n'a posé, semble-t-il, aucun problème aux électeurs de gauche de voter pour une alliance à gauche comprenant LFI. En revanche, les appareils politiques, je ne suis pas certain qu'ils continuent à le faire, et donc par conséquent, un renouvellement sous une autre forme de la grande coalition des modérés, c'est, me semble-t-il, une hypothèse envisageable. Écoutez, au-delà de cela, je ne peux pas me prononcer plus précisément.
Puis surtout, vous devez nous quitter. Merci beaucoup, Guillaume Bernard, d'avoir été avec nous ce matin. On va continuer rapidement cette discussion avec Guilain Bénessa, mais on ne manquera pas de vous réinviter, comme toujours, pour discuter de tout ça. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Guilain Bénessa, on continue avec vous. Donc, comment gouverner aujourd'hui en France, puisque c'est la question qui va se poser pour 2027. Et Guillaume Bernard le disait, aujourd'hui, on assiste quand même à une force de rejet qui est énorme, au maintien de cette tripartition dont beaucoup de Français ne veulent plus parce que ça amène à des alliances hallucinantes. On a à nouveau Gabriel Attal qui tente de tendre la main à la gauche, alors que la majorité, enfin une majorité de Français justement, serait assez dégoûtée de ce genre de choses. Comment est-ce que ça va se passer dans les mois à venir jusqu'à cette échéance des présidentielles selon vous? Et est-ce que cette fracture du pays, c'est pas devenu une fatalité?
Alors là, Lisbeth, vous ouvrez un champ absolument gigantesque à envisager en quelques minutes. Alors, prenons les choses dans l'ordre. Première question, la fin de la Macronie. Alors, la Macronie a absorbé la bourgeoisie de droite et de gauche, on va dire ça un peu vite, à l'origine en 2017. Et la Macronie a quand même, mine de rien, qu'on le veuille ou non, avec des sondages qui sont dramatiques pour Emmanuel Macron, mais tout de même, la Macronie tient sur un fil assez ténu, hein, mais tient depuis 2017. Et hier soir, la Macronie, mine de rien, qui, à mon avis, a quand même, globalement, elle dira ce qu'elle veut, la Macronie, mais elle sort quand même pas vraiment en force au municipal, parce que ce n'est pas une force locale enracinée. Elle sort tout de même avec, si j'ai bien compris, avec Bordeaux raflé par la force. Donc, elle bénéficie quand même d'une assez grande ville, d'une grande ville française. Premièrement, donc, la question qui va se poser, c'est ce que je disais, est-ce que la Macronie va tenir ? Deuxièmement, c'est directement lié, Guillaume Bernard en parlait à l'instant, à l'avenir du PS, parce que si on met un peu de compte, mettons un peu d'histoire récente là-dedans, le PS a fait ce fameux choix, il y a quelques années, de passer, je vais un peu vite, hein, mais de changer de camp, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des cols bleus et les ouvriers, elle a fait le choix, vous savez, la fameuse note de Terra Nova, elle a fait le choix de l'immigration et de la diversité au détriment des cols bleus, donc les ouvriers ne votent plus PS depuis très longtemps, d'où la question, fameuse passage au Parti communiste et surtout au RN, ensuite dans un second temps, qui a raflé, on va dire, une grande partie du vote ouvrier. C'est-à-dire que le PS a un vrai problème de cheptel, et je le dis de façon volontairement agressive ou pas agressive, mais on va dire ironique. Le cheptel, c'est pas très respectueux, mais le PS doit se trouver un cheptel, si ce n'est en tout cas une sociologie électorale. Or, où est-ce que le PS en a trouvé une ? Je le disais tout à l'heure, dans les grandes villes type Paris, qui maintenant sont définitivement des villes de gauche, dans un alliage PS-écolo, d'accord ? Ce qui veut dire que le PS a un avenir à ce niveau-là, mais n'a pas tellement d'avenir pour le reste. Ça m'étonnerait franchement que le PS arrive à draguer les ouvriers, elle qui n'en a rien eu à foutre, hein, faut le dire, les socialistes ouais. N'ont pas grand-chose à faire des ouvriers depuis si longtemps, que ça m'étonnerait franchement que demain, ça les angoisse beaucoup de s'occuper du monde ouvrier, du monde de la désindustrialisation, de ce monde-là qui vote RN, à la fois par adhésion pour le RN et par l'outrecuidance d'un PS qui a laissé tomber cette France-là depuis si longtemps. Pourquoi je dis ça ? Parce que c'est dans ces sociologies-là que le renouvellement et que l'avenir se trouvent. C'est-à-dire que les appareils ont beau dire ce qu'ils veulent, les apparatchiks ont beau dire ce qu'ils veulent, les partis ont beau avancer avec des grandes phrases, etc., du genre les alliances, etc., la question est où est-ce que je trouve des voix ? Or, moi personnellement, à courte vue, je ne crois pas du tout que le PS puisse revenir au centre. Je ne suis pas en train de dire que le PS est fondamentalement toujours d'extrême-gauche, hein, c'est pas ce que je dis. Je dis simplement qu'en termes de sociologie et à la fois en termes d'alliances, je ne sais pas si demain le PS a un intérêt de revenir avec une Macronie en train d'en venir à son crépuscule. Donc, ça veut dire que l'alliance naturelle entre PS et LFI, à mon avis, va tenir, puisque d'une part, il y a une habitude de la gauche unie, je le disais tout à l'heure, pour aller aux élections, et d'autre part, parce que je ne vois pas le PS chasser sur les terres de la Macronie ayant déjà largement, siphonné ce qu'il pouvait dans cette bourgeoisie de droite et de gauche qui se retrouve. Et le problème du PS, c'est que ça, regardez à Paris, sa sociologie est une sociologie assez proche de celle que drague ou a déjà dragué la Macronie, c'est-à-dire les grandes villes, un centre-gauche, on va dire, environnementaliste, boboisé, qui en réalité rêve de quoi ? Qui rêve du Vélib, d'accord ? De plus de Vélib, de plus de smoothie commerce équitable, d'accord ? Et de centres-villes qui ont déjà largement basculé dans ses griffes. Donc, je ne vois pas comment le PS pourrait faire l'économie de se rendre compte qu'elle est déjà captive d'une forme de ghettoisation par le jeu du fait qu'elle est sur une sociologie proche de la Macronie, mais qu'en même temps, au niveau national, la Macronie crève et elle ne veut pas finir dans les décombres de la Macronie. Ce qui veut dire qu'on a une force centrale qui trouvera une forme d'appoint d'une manière ou d'une autre. Je pense qu'Édouard Philippe, d'ailleurs, ça c'est personnel, hein, ça c'est subjectif, mais je pense qu'Édouard Philippe, je le dis depuis longtemps, sera le candidat naturel de la Macronie, même à une époque on en parlait assez peu. Moi je pense qu'Édouard Philippe est le champion de la succession du macronisme, hein. Il est europhile, eurocompatible, modéré, quelque part là, assez ennuyeux, d'accord, vous savez Yves, c'est l'EHPAD, hein, là, je veux dire, sur le fond, la Macronie a toujours été une forme d'EHPADisation de la. Vous me regardez, je sens vos grands yeux un petit peu dubitatifs, mais l'EHPADisation, parce que d'une part, il y a une France de la rébellion de gauche, c'est la nouvelle France, hein, d'accord, dont va parler François Bosquet, je pense, tout à l'heure, et il y a la France rebelle ou résistante de droite, qui est une France qui a basculé au RN pour des questions sociologiques de pouvoir d'achat, de vie chère, comme on dit, d'immigration, etc. Ces deux blocs sont constitués. Donc vous voyez qu'au milieu, je ne vois pas comment le PS peut faire autre chose que d'allier vers la force qui monte, qui s'appelle la France insoumise, en essayant de ne pas se faire éparpiller en cours de route par Mélenchon, et sans trop non plus perdre de vue qu'elle a sociologiquement un lien avec la Macronie. C'est dans ce cadre-là qu'on va aller aux élections présidentielles. Je ne vois pas ce qui peut modifier cette tripartition pour l'instant, si ce n'est, et ça, c'est très, pour moi, c'est, C'est extrêmement important. Si ce n'est qu'en fait, en France, il y a principalement deux blocs qui s'affrontent, la Nouvelle-France et la France rurale, parce qu'en fait, la Nouvelle-France est une France des villes, ou une France de l'immigration, en tout cas, qui est plus puissante à Saint-Denis, évidemment, qu'en plein cœur du, je ne sais pas de quel endroit en France perdue, on va dire, ou périphérique. Ça veut dire que les deux blocs sont en route, en marche, et qu'au milieu, l'EHPAD macronien tient, mais, et je finirai avec cela, mais c'est pour moi fondamental, l'EHPAD macronien tient tant que la France a encore quelque chose à pouvoir, à des richesses à répartir. Plus la France se paupérise, plus elle fait monter naturellement le RN et la France insoumise, puisque je vais très vite, mais Jérôme Fourquet l'a très bien fait dans son dernier bouquin. D'un côté, on a les déclassés mais qui vivent par l'assistanat, qui sont l'électorat de la France insoumise, hein, en grande partie. Donc, mais c'est quand même une France pauvre. Et de l'autre côté, on a les Français déclassés, mais qui sont les petits patrons, les ouvriers, ça, qui travaillent tous les jours et qui vivent de plus en plus mal, parce que la France, regardez le prix de l'essence aujourd'hui, totalement délirant, avec une Macronie qui nous dit que 20% d'augmentation du gaz, c'est pas grave, ça change rien à l'affaire. Hein, c'est les propos d'Emmanuel Wargon il y a quelques jours. Je pense que là-dedans se jouent les deux Frances qui s'affrontent. Et si la France continue de se paupériser, l'EHPAD macronien finira dans un tout petit couloir, voire dans un cagibi, parce que la France des riches est en train de crever et que la France de la paupérisation, malheureusement, est en train de monter. C'est presque logique, c'est tristement logique, mais c'est le paysage auquel nous sommes confrontés aujourd'hui de plus en plus.
Merci beaucoup, Guylain Bénessa, et on continuera de commenter ce paysage avec vous régulièrement. Merci pour ce matin, et je vous dis donc à très bientôt.
À bientôt.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite avec Lise-Lotte Dutreuil.
Merci d'être avec nous ce matin, chers auditeurs, et puis bonjour à ceux qui nous rejoindraient en cours de route. Dans quelques instants, on retrouve François Bousquet. On va parler de cette nouvelle France que Guylain Bénessa, Guillaume Bernard évoquaient déjà il y a quelques instants, et donc de ce chaos que veut la gauche. Et avant cela, une chronique de Anne Darcy avec Richard de Sèze. Le bulletin d'actualité, tout de suite, c'est avec Magda.
Les municipales sont tombées dans les grandes métropoles. La gauche a résisté, notamment à Paris, Lyon et Marseille. Mais sur le territoire, la droite enregistre plusieurs victoires importantes. Clermont-Ferrand bascule et des villes comme Limoges, Brest, Tulle ou encore Besançon et Poitiers. Et à Nice, Éric Ciotti l'emporte et détrône Christian Estrosi. Les Italiens sont attendus aux urnes depuis hier et jusqu'à aujourd'hui pour un référendum sur une réforme judiciaire voulue par la première ministre Giorgia Meloni. Et enfin, du côté des États-Unis, Cuba se prépare à une éventuelle invasion américaine. Et sur le plan intérieur, Donald Trump poursuit le durcissement de sa politique migratoire avec le déploiement de sa police de l'immigration dans les aéroports. Et en ce lundi 23 mars, nous célébrons Saint-Uribe, Saint-Victorien et Saint-Luc-le-Nouveau.
Merci Magda.
Ligne droite.
Bonjour Richard.
Et bonjour à tous les auditeurs. Et bonjour à Anne Darcy, qui est présidente de la vente de l'œuvre des campagnes. Qu'est-ce que c'est que l'œuvre des campagnes?
Avant tout, bonjour monsieur. Merci de m'inviter à Radio Courtoisie pour parler de la vente de l'œuvre des campagnes. L'œuvre des campagnes, donc, c'est une œuvre catholique, très ancienne. Sa mission est d'aider moralement et financièrement tous les curés de campagne dans l'exercice de leur mission. Ça a été fondé il y a à peu près 170 ans par l'abbé Vandel, très encouragé par le curé d'Ars. L'œuvre vit de legs et de dons, et aussi de sa vente de charité qui a lieu une fois par an. Et nous aidons donc les curés qui vieillissent dans toutes les régions de France.
Alors, si vous deviez résumer en une phrase l'œuvre des campagnes.
Eh bien, un curé de campagne aujourd'hui a la charge entre 15 et 40 clochers. Et pour gérer, il faut un curé en bonne santé et une voiture en bon état.
Voilà, un curé en bonne santé, une voiture en bon état. Voici un slogan simplissime. Et donc, pour ce faire, jeudi, il y a à Saint-Honoré-des-Lots, donc une vente de charité qui est gigantesque.
Exactement. Nous avons donc cette grande vente de charité où il y a un grand déjeuner très convivial de 250-300 couverts, un café, le café du clocher où on peut faire une petite restauration rapide, un salon de thé, etc. Une trentaine de stands où on peut acheter des bijoux, des habits d'enfants, des déguisements, des icônes, de la porcelaine, tout des tas de stands très variés et très sympathiques. L'ambiance est très, très convivial, on se promène partout, tout le monde a l'air de se connaître, personne ne se connaît, tout le monde fait connaissance. Voilà. Et aussi, vous avez une trentaine d'auteurs qui dédicacent leurs livres. Et cette année, on a la chance d'avoir le prix Renaudot et le prix Interallier, et qui va faire venir, j'espère, beaucoup de gens.
Voilà. Oui. Et cette vente de charité donc, a lieu une fois par an, voilà, à Saint-Honoré-des-Laux, dans la crypte de Saint-Honoré-des-Laux.
Exactement, nous sommes très bien accueillis par monsieur le curé. Et ça a lieu là, donc tous les ans, un jeudi de mars.
Un jeudi de mars. Avec cet argent récolté et tout le reste, donc vous aidez, je crois, des prêtres dans toute la France.
Alors, nous aidons dans toute la France, nous avons des délégués toute la France et ça remonte à Paris. On cherche, on va voir l'évêque et on demande quel est le curé qui a besoin de plus ou moins de choses. On peut réparer ses lunettes, on paye les mutuelles, les dentistes, enfin voilà. Mais malheureusement, les curés vieillissent et il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de jeunes pour continuer.
Voilà, il faudrait plus de jeunes chez les curés et plus de jeunes à l'œuvre des campagnes.
Exactement. Mais venez nombreux à la vente, donc jeudi prochain, 26 mars, de 10h30 à 18h30.
Bah, et je peux témoigner, c'est vrai, le rayon des bouquins d'occasion est hyper fourni et c'est vraiment pas cher. Merci beaucoup, Anne Darcy.
Merci beaucoup, monsieur.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Ligne droite, débattons-en.
Et nous poursuivons avec François Bousquet. Bonjour et merci d'être avec nous. François, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin.
Pareillement, ouais. Merci Lislotte, hein, et de vous voir métamorphosée. Et toujours aussi rayonnante. Hein.
Merci, c'est gentil, c'est le retour du printemps. François Bousquet, on va parler de cette nouvelle France, évidemment, puisque c'est la grande inquiétude quand même après ce scrutin des municipales. Je pense que beaucoup de nos auditeurs se réjouissent quand même de voir cette percée du Rassemblement national qui s'impose partout en France, notamment dans le Sud. On en discutait il y a quelques instants. Mais on a quand même ces zones de France qui, elles, se retrouvent aux mains de la France insoumise et surtout donc de ce nouveau programme affirmé par Jean-Luc Mélenchon, cette volonté de fracture tout simplement avec le reste de la société et des Français. Est-ce que vous pourriez commencer par nous donner votre avis, votre analyse de cette situation aujourd'hui, de cette fracture ?
Alors, reconnaissons à Jean-Luc Mélenchon une qualité, c'est qu'il appelle un chat et l'abbé Cotin un fripon. Il parle, il assume les termes de créolisation, de grand emplacement, de Nouvelle France. Alors Nouvelle France, pour nous Français, amoureux du Québec, évidemment ça sonne et ça résonne de manière étrange. Il suffisait de rajouter un trait d'union et on a la définition de ce qu'était le Québec, naguère, la Nouvelle France. C'est un choix que Mélenchon assume depuis son échec au premier tour des élections présidentielles de 2017, mais néanmoins il y a des permanences, j'y reviendrai sur ces permanences, en particulier le choix d'un populisme de gauche, dont l'islamo-gauchisme n'est qu'une des traductions, mais se rajoute également, c'est un dispositif à deux coups, le mélenchonisme, il y a l'islamo-gauchisme dont on parle beaucoup, surtout depuis le 7 octobre, mais dès avant le 7 octobre, islamophobie dénoncée par Jean-Luc Mélenchon et LFI, Gaza bien sûr, les exactions commises à Gaza depuis le 7 octobre 2022, si je ne dis pas de bêtises. Mais se rajoute un autre volet, c'est moi ce que j'appelle le gaucho-racialisme, qui est quasiment le volet principal, presque. C'est le dispositif principal actionné par Jean-Luc Mélenchon. C'est un pari d'ethno-mathématique, comme dirait Bernard Lugan, le professeur Lugan. C'est un pari d'ethno-mathématique, mais évidemment, ce pari peut se gagner ou ne pas se gagner. Pour qu'il soit gagné, ce pari-là, il faudra une génération. Donc, raison pour laquelle les victoires de LFI au municipal sont à pondérer. Ce sont d'abord des victoires symboliques, ce sont d'abord des symboles. Et les symboles comptent en politique. La prise de Saint-Denis est un symbole très très fort. Le triomphe, alors Mélenchon, c'est toujours une parole performative. Il a l'art de transformer les défaites électorales en victoires électorales. Mais là, il y a des victoires symboliques très très fortes. Vénissieux, Roubaix, d'autres villes qui sont grand remplacées, mais Saint-Denis est le symbole le plus fort. On a beaucoup insisté dans le cas de Saint-Denis, il y a eu même des jeux de mots, Renaud Camus a fait un jeu de mots formidable que je ne peux pas citer à l'antenne, hein, sur la nécropole, l'ancienne nécropole royale, mais Saint-Denis c'est un peu un précipité de l'histoire de France. Hein. Gilles Kepel avait fait en 93, hein, un livre qui s'appelait 93 comme Victor Hugo, il y a 15 ans de cela, pour rappeler que Saint-Denis ça avait été non seulement la ville des rois, mais ça avait été également la ville des rouges. Hein. La ville du Parti communiste. Hein. Donc, on est passé de la ville des rois à la ville des communistes et de la ville des communistes à la ville des salafistes. Hein. Et c'est peut-être un précipité de l'histoire de France. Hein. Mélenchon a rappelé récemment que les cathédrales avaient été faites, enfin, le génie des cathédrales hein, avait été pensé par les Arabes. Non, c'est pas vrai. Le génie des cathédrales est un génie spécifiquement français. Île-de-Francien même, hein, c'est le périmètre hein, de la première monarchie française hein, et une des premières cathédrales qui a été construite, hein, c'est à Saint-Denis par l'abbé Suger, ou l'abbé Suger, je n'ai jamais su comment on l'appelait, mais c'est le cœur, hein, c'est le cœur du gothique hein, qui a été inventé par l'Île-de-France. Le gothique a été inventé par l'Île-de-France avant de se répandre en Angleterre, en Allemagne, etc. Mais le cœur, c'est de Sens hein, au département du nord de Paris. Donc c'est bah, Mélenchon fait ce choix-là de la Nouvelle-France, c'est un choix qu'il fait depuis 10 ans. Alors je disais qu'il y avait des continuités. Moi, je pense qu'on se trompe. Hein. On a dit que Mélenchon avait fait une campagne populiste en 2017 et qu'il avait renoncé au populisme. Alors, le populisme, c'est un produit politique assez meuble. Hein. Et je crois que la matrice du populisme mélenchonien est toujours là. C'est quoi cette matrice hein? C'est deux choses principalement. C'est l'idée qu'il faut conflictualiser. Voilà. C'est, cette idée-là, il l'emprunte à deux théoriciens politiques du populisme de gauche et d'extrême-gauche, qui sont Ernesto Laclos et Chantal Mouffe, hein, le premier argentin, la seconde belge, hein, les deux étaient mariés en couple, hein, et ils ont théorisé un populisme de gauche dont Mélenchon s'inspire directement, même s'il le cite beaucoup moins. La première dimension de ce populisme, hein, c'est la polarisation extrême. Hein, c'est nous clivons. L'espace politique hein, est le lieu où l'ami et l'ennemi s'affrontent. Hein, c'est la montée aux extrêmes. Hein, c'est la conception du débat comme un combat politique. Hein, et Mélenchon s'applique là-dedans. Si vous regardez le tempérament politique de Mélenchon, si vous regardez sans le son, mettez pas le son. Mélenchon, c'est un chien qui aboie. Mélenchon est un aboyeur. Hein. Si vous mettez pas le son, vous verrez qu'il aboie. Quand il parle, c'est des coups de menton, c'est du caporalisme, c'est une forme de césarisme. Donc il applique à la lettre hein, cette théorie-là. Et l'autre dimension, et ça je vais répondre à la question de la Nouvelle-France, hein, l'autre dimension du populisme de gauche défini par Ernesto Laclos et Chantal Mouffe, hein, c'est que le peuple n'existe pas. C'est que, pour reprendre le mot de Laclos, le peuple est un référent vide, hein, c'est ce que dit Laclos. Et c'est ce qu'applique littéralement Jean-Luc Mélenchon. Le peuple est un référent vide. Hein. On met ce qu'on veut dans le peuple. Le peuple est une coquille vide, hein, conceptuelle, politique, hein, qui n'a aucune antériorité historique, hein, qui ne s'inscrit pas dans la longue histoire, hein, qui n'a pas d'épaisseur ni de profondeur historique. Hein. Le peuple ne devient peuple, à la lumière des théoriciens du populisme de gauche et d'extrême gauche, hein, que lorsque par un acte souverain, il décide d'être ce peuple politique. Donc en réalité, quand on dit que c'est un référent vide, on met ce qu'on veut dans ce peuple. On peut y mettre, donc y jeter, y déverser l'Afrique. C'est le choix que fait Mélenchon, c'est le choix que fait LFI. On va déverser l'Afrique dans ce référent vide qu'est le peuple pour en faire un peuple politique, un peuple français, avec les guillemets, d'usage. Mais il est évident que c'est une antiphrase. Cette France nouvelle n'est jamais qu'une Afrique nouvelle qui se déverse, qui déverse son surplus démographique dans l'Europe de l'Ouest et dans la France en particulier. Et on retombe sur Bernard Lugan, que j'évoquais. Lugan a fait un livre, le titre est génial, le bouquin, c'est un bouquin à la Lugan, à la fois très sourcé historiquement, c'est comment nous sommes devenus les colonies de nos colonies. Et quand j'évoquais le clin d'œil à la Nouvelle-France du Québec, hein, c'est qu'il y a un discours colonial assumé par Mélenchon, néocolonial. Il s'agit de coloniser la France, hein, comme la France a pu coloniser l'Afrique. Hein. Donc c'est un mouvement de flux et de reflux que Mélenchon assume. Alors la qualité de Mélenchon, c'est que son fantasme créole, hein, qui est un fantasme qui traverse tout le corps social, toute l'institution, quelle qu'elle soit. Regardez une publicité, toutes les publicités font la promotion de la créolisation. Vous regardez le programme d'éducation nationale, c'est la créolisation. Je le dis aux gens qui ont eu la tentation de voter Sarkozy. Sarkozy, à l'époque de Buisson, hein, Buisson s'arrachait le peu de cheveux qu'il avait sur son crâne, hein, qu'en 2007-2008, hein, Sarkozy s'est fait le promoteur et le défenseur d'une France créolisée et métissée. Louis Sarkozy ne dit pas autre chose. Hein. Il s'en fout que Mohamed devienne un prénom français, que dans 400 ans, la population française ressemble à son café. Donc ce fantasme de la créolisation, mais il est inavoué, il est implicite. Hein. Donc concédons à Mélenchon, je le redis, d'appeler un chat un chat. Le grand remplacement il l'assume. Ça n'est plus un complot d'extrême droite fantasmé. C'est une réalité assumée par Jean-Luc Mélenchon. Donc, rendons-lui au moins cette grâce, hein, c'est que d'appeler les choses par leur nom. Simplement, cette nouvelle France, hein, c'est une antiphrase. Hein. C'est l'antiphrase, c'est la négation de la France. Hein. Si j'étais Aurore Berger, je dirais que c'est l'anti-France, hein, cette nouvelle France. Hein. Et c'est un pari risqué, parce qu'en l'État, il est minoritaire. Hein. Donc, je le redis, hein, c'est un succès relatif des Insoumis. Alors certes, dans certaines villes, grandes villes comme Lyon, il y a un succès de l'alliance Vert-Insoumis. Les Verts sont plus proches des Insoumis que ne le sont les socialistes, hein, parce qu'on l'a vu à Paris, par exemple. Hein. Mais néanmoins, ces victoires symbolisent ces plateformes islamisées, que sont Roubaix, Saint-Denis, etc. Ben, ce sont quand même des symboles, ce sont des mythes politiques. Hein, et c'est un pari que fait Mélenchon à long terme. Alors, ce pari, il est minoritaire aujourd'hui. D'un, parce qu'on n'est pas totalement grand remplacé, mais c'est en passe, et je le redis, c'est à une échelle d'une génération ou deux. Et ensuite, parce qu'il y a un sous-vote, hein, il y a un survote immigré et musulman pour Mélenchon, mais globalement, il y a un sous-vote. Si vous regardez la Seine-Saint-Denis, c'est certainement le département français ou un des départements français qui vote le moins, où les taux d'abstention sont les plus forts. Hein. Mais néanmoins, ça relate, évidemment, ça empêche hein, une vague hein, insoumise qui aurait pu être beaucoup plus forte qu'elle ne l'est. Mais bon, c'est Mélenchon fait ce pari à d'une génération ou deux. Le paradoxe, c'est qu'ils sont grands remplacés eux-mêmes, sauf l'état-major. Ouais. L'état-major insoumis reste hein, blanc. Rappelez-vous, Rokhaya Diallo, à la première législative hein, du second mandat de Macron, à l'époque c'était la NUPES de mémoire, hein, et Rokhaya Diallo, quand elle a vu la photo des députés de la NUPES, hein, donc socialistes, verts et insoumis, devant l'Assemblée nationale, a dit « je suis aveuglé parce qu'il n'y avait que des blancs ». Donc de fait, l'état-major reste blanc, mais au niveau local, c'est les municipales, eh ben, c'est un effet loupe, hein. À Roubaix, certes, hein, mais Saint-Denis, capitale des rois, enfin, entre autres, hein, qui désormais est grand remplacé. Donc on a, moi j'attends avec impatience le grand remplacement de l'état-major insoumis et que à la place du grand mufti de Marseille, qui est Jean-Luc Mélenchon, eh bien, on a un vrai mufti, un vrai tchèque, un vrai imam, hein, et ça ne saurait tarder.
C'est vrai que, comme vous dites, il faut quand même reconnaître à Mélenchon la capacité d'imposer, d'éclaircir ce discours, avec le retour quand même de ce pari ethnique dans le jeu électoral. Et aujourd'hui, quand on voit par exemple la victoire de M. Bagayoko en Seine-Saint-Denis, il y a évidemment cette idée que c'est un homme noir et issu de ces communautés immigrées qui emportent aussi encore la marque culturelle, qui remporte les élections. Donc longtemps, on avait du mal, une certaine pudeur à pointer ça du doigt. Aujourd'hui, c'est évident. Et quand on regarde les images de leur célébration, on sent bien, certains l'assument, d'autres moins, que leur joie, elle vient aussi de cette idée qu'ils mettent dehors les Blancs. Et y compris les Blancs de gauche, et qui se réapproprient le terrain politique après une appropriation qui a d'abord été géographique, avec donc ces quartiers entiers qui aujourd'hui sont majoritairement immigrés.
Oui, c'est... Moi, je pense quand même néanmoins que tous les insoumis l'assument. La gauche, au sens large, ne l'assume pas, parce qu'elle reste une partie de la gauche, les socialistes, certains verts, pas tous, hein, sur une conception universaliste de la nation française, hein, qui reposait sur des schémas, alors c'est des schémas flottants, hein, assimilation, intégration, etc., qui pouvaient fonctionner. Moi, je suis pas hostile au principe de l'assimilation, hein, dès lors qu'il s'agit d'assimiler des Européens en France. Hein. Simplement, la gauche, hein, c'est la gauche et les Républicains. Les Républicains au sens large du terme, pas les LR, hein, les Républicains attachés au principe républicain d'assimilation, et postuler que la République était aveugle hein, aux différences. Hein. C'est le béaba de l'assimilation républicaine, hein. La République est aveugle aux différences. Or, ce luxe, hein, être aveugle aux différences, hein, fonctionnait lorsque ces différences étaient, pour ainsi dire, inexistantes, hein, lorsqu'il s'agissait d'assimiler des Polonais, lorsqu'il s'agissait d'assimiler des Portugais, des Italiens, des Espagnols. Hein. Donc on s'est payé la comédie de croire qu'on était universaliste. Non, il n'y a pas d'universalisme. Hein. L'universalisme ne fonctionne pas. Et donc là aussi, moi, je rends grâce hein, à cette gauche hein, qui s'éloigne de l'universalisme. Il y a deux gauches, il y a un énorme conflit à gauche hein, qui traverse toutes les gauches, pas seulement la gauche française, hein, c'est une gauche hein, mélenchonienne qui assume l'islamisme, qui assume donc la récusation du principe de laïcité. Hein, et rappelons que le combat de la gauche depuis 250 ans, c'est d'écraser l'infâme. Hein. Alors, l'infâme, c'était l'Église catholique. Hein. L'Église a si bien été écrasée qu'elle a quasiment disparu dans les campagnes, hein, qu'elle a disparu dans les quartiers. L'Église reste désormais, c'est une sociologie de centre-ville, hein, de CSP+. Hein. Donc la gauche a réussi ce pari-là, étonnamment. Donc il y a un retour de bâton. Les gens qui disaient ni Dieu ni maître, hein, d'aujourd'hui revendiquent un Dieu, mais ce n'est pas le nôtre, hein, c'est un Dieu qui vient du Sud. Hein. J'ai en tête, parenthèse, le mot de Guy Mollet. Guy Mollet disait que les communistes ne sont pas à gauche, ils sont à l'Est. Hein. On peut dire la même chose de Mélenchon. Le mélenchonisme n'est pas à gauche, hein, il est au Sud. Hein. C'est un choix de transvasement ethnique, confessionnel, du Sud vers le Nord. Hein. Donc il l'assume. Hein. Moi, j'ai souvent dit à cette antenne, hein, je me répète là, je rends grâce à Mélenchon, à l'extrême gauche, hein, celle d'Ouria Boutelja par exemple, des indigènes de la République, hein, d'avoir une conception ethnique de la nation. Ce qui me gêne chez eux, c'est que cette conception ethnique est importée chez nous. Moi je suis pour le Zambèze libre, hein, et pour la Corrèze libre, hein, mais je ne veux pas qu'on transvase la Zambèze dans le Corrèze.
Hein. Donc, et inversement.
Donc ça clarifie les choses. Hein. Cette racialisation clarifie les choses hein, et éloigne de nous le vœu pieux de l'assimilation républicaine, je le redis, qui ne peut fonctionner que si elle assimile du même. Donc je rends grâce, et c'est assumé par tout LFI. J'avais eu l'occasion au début d'année de faire un édito sur Radio Courtoisie sur la façon dont la trêve des confisseurs avait fonctionné. Rappelez-vous, Carlos Mertens Bilongo assume un suprémacisme africain, noir, vraiment noir, là, pour ouais. le coup. Même chose, c'est chez Ali, alors lui, c'est dans le 93, Ali, député, hein, député noir, je crois d'origine sénégalaise, à vérifier, Ali Diouara, assumait également le fait qu'il se battait pour les Noirs et les Arabes. Hein. Donc, c'est assumé. Donc, ce sont deux Frances qui se font vis-à-vis. Moi, je reprends le titre de la revue Frontières, c'est « Un peuple, deux États ». La question, la configuration israélo-palestinienne s'appliquera peut-être à moyen terme, sinon à long terme en France, hein, sous réserve, pour peu, bien sûr, qu'il n'y ait pas de politique de remigration et que les flux migratoires continuent à exploser.
Pour ce résultat et donc cette participation des dernières municipales, François Bousquet, on parlait à l'instant avec Guillaume Bernard et Guylain Bénessa des fractures sociologiques que ça mettait en évidence entre une France des métropoles et une France périphérique. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a aussi donc une fracture ethnique, je pense qu'on peut même dire raciale, entre effectivement ces communes-là. Et puis, le reste de la France blanche, qui est de toute façon, encore une fois, pointé du doigt et refoulé par des personnages comme, vous l'avez dit, Carlos Martins Bilongo, ou bien Monsieur Bagayoko, ou autre. Est-ce que, selon vous, cette fracture-là, dans les années à venir, va s'avérer encore plus importante que les fractures sociologiques ? Enfin, bref, comment ces deux fractures, finalement, s'entremêlent ou pas, d'ailleurs ?
Elle s'entremêle en partie, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, le vote, les catégories populaires les plus paupérisées, les plus précarisées, votent Mélenchon. Il y a eu des études assez précises. Le vote mélenchonien est bizarre. Hein. C'est un vote de banlieue, souvent sous des populations précarisées, et c'est aussi un vote d'ultra-riches. Hein. Par exemple, moi je suis dans l'Yonne, hein, par exemple à Vézelay, donc qui est sûrement l'endroit dans l'Yonne où le prix du mètre carré est le plus élevé. On vote Mélenchon, parce que c'est gentrifié, parce que c'est la bourgeoisie rouge. Alors pour vous répondre, oui, c'est une France, Fourquet a tout dit sur cette France, elle a archipélisé. Aimable hein, de l'archipélisation, c'est la croalisation, mais ça ne fonctionne pas. Les gens pratiquent le séparatisme, hein, le white flight, donc la fuite des Blancs, qui pour moi est le plus grand exode hein, qui s'est produit en France, hein. Après l'exode rural des années 50-60. Hein. C'est-à-dire que des millions de populations dans les quartiers nord de Paris, dans la petite couronne, ont déserté, et ce, dans toutes les grandes villes, hein, Bordeaux, etc., ont déserté les centres-villes, hein, qui étaient des centres aussi ouvriers, hein, il y avait de l'industrie, pour s'installer à la campagne. Donc ils ont d'abord voté avec leurs pieds. Et ensuite, ils votent avec leur bulletin dans les urnes pour la France périphérique. Hein. À côté de cette France périphérique, il y a la France des tours. Hein. Je reprends la métaphore de Ruffin, les tours et les bourgs. Hein. Il y a la France des tours qui, aujourd'hui, est en train de faire le choix de LFI. Avant de faire des choix plus confessionnels et plus communautaires, ça viendra, hein, c'est le cas en Belgique, c'est le cas en Angleterre, hein, mais ça viendra en France, ce qui fait que l'état-major LFI sera grand remplacé. Et puis il y a la France centrale, hein, qui est toujours là, c'est l'extrême-centre, l'hyper-centre, peu importe, on a vu Édouard Philippe, hein, le succès d'Édouard Philippe, hein, qui risque de capitaliser dans un an à la présidentielle, hein, cette France centrale. Si on regarde la carte électorale, hein, le vrai vainqueur, hein, c'est l'alliance Renaissance-Horizon-LR, hein. C'est le vrai vainqueur municipal. Hein. C'est eux qui raflent le plus de villes. Alors certes, il y a une progression spectaculaire, hein, dans les villes de, 50 000, de moins de 50 000 habitants du RN, hein, mais la vraie progression, c'est les LR, hein, qui est un parti, les LR qui est un parti mort au niveau national, hein, mais qui reste une agence régionale de l'emploi, puisqu'ils conservent énormément de fiefs, énormément de municipalités, surtout quand ils s'associent à Renaissance ou à Horizon. Donc il y a également une France centrale, on retombe sur le schéma de tripolaire, hein, de trois grandes forces, hein, la gauche, hein, unie ou pas, l'hypercentre, hein, et puis ensuite UDR, RN, hein. Donc c'est une France qui est fracturée, c'est une France qui est déchirée et qui se dirige de plus en plus vers un vote communautaire. Alors là encore, c'est le mot élégant pour parler de vote ethnique ou confessionnel. Hein. Donc comme à la Radio Courtoisie, on va appeler les choses par leur nom. C'est un vote ethnique, ethno-confessionnel. Hein. On s'y dirige de plus en plus. Hein. Ce qui, en général, c'est les configurations de pré-guerre civile. Hein. Eric Werner, d'avant-guerre civile. Hein. Il y a un auteur anglais qui a fait cet été une étude sur les risques de guerre civile en Europe. Hein, et il s'arrête particulièrement sur le cas français et le cas britannique, hein, où selon lui, la probabilité d'une guerre civile est quand même très très forte à horizon de 5 ou 10 ans. Et il dit quel est un des signaux qui nous alerte sur un climat de pré-guerre civile, hein, c'est ce qu'il appelle le factionnalisme généralisé. C'est-à-dire que les gens ne votent plus, un homme de droite ne vote plus en fonction de ses convictions, ou pas seulement sur les questions éthiques, hein, sur les questions entrepreneuriales, hein, sur les questions d'autres questions. C'est-à-dire que vous n'êtes pas plus pour l'avortement ou contre l'avortement. Vous votez en fonction de votre groupe social, de votre groupe ethnique, de votre groupe religieux. C'est donc un vote ethnique. Hein, c'est ce que Lugan appelle l'ethno-mathématique. Hein. Aucune société multiculturelle n'y échappe. Hein. On vote, hein, pour sa couleur de peau. Alors, qu'on se comprenne, hein, moi je ne veux pas être réduit à ma couleur de peau. C'est un des éléments de mon identité, mais ce n'est pas le seul. Hein. Je ne suis pas seulement défini par la génétique ni par la biologie. C'est un élément, mais dans les contextes multiculturels, hein, qui sont des contextes multiconflictuels, hein, le seul dénominateur commun entre les individus, c'est leur attachement à la religion et à la couleur de peau. Ce qui me fait dire que le dénominateur commun des sociétés culturelles est un détonateur, est un dynamiteur. Et c'est ce vers quoi on se dirige de plus en plus. Hein. Isabelle Saborta, on a presque fait l'aveu embarrassé il y a une semaine, un soir du premier tour, en disant il y a deux France. Elle se trompe, il y en a trois, hein, j'insiste, il y en a trois. Il y a une France qui continue de croire que le modèle qui est le nôtre pourra fonctionner, c'est la France de l'hypercentre, de Macron. Mais Isabelle Saborta dit il y a deux France. Il y a celle des Blancs, ou des petits blancs, la France, la nouvelle France de Jean-Luc Mélenchon, qui est une France... on est renvoyé, vous savez, en peinture. Alors c'est toujours embarrassant de dire ça, parce que Gobineau, qui est le grand théoricien du racisme, hein, par ailleurs très contestable, hein, mais par ailleurs grand romancier, hein, je n'y dis pas rien, même Lévi-Strauss concédait que c'était un magnifique romancier, un superbe, un génial nouvelliste, hein, disait qu'il y avait trois races primitives, c'est absurde, hein, mais en revanche, en peinture, il y a trois couleurs primitives. Voilà, c'est, je ne veux pas dire de bêtises, le jaune, le bleu et le rouge, enfin, peu importe. Hein. Avec ces trois couleurs, vous faites tout. Eh ben, les sociétés multiculturelles, hein, se décantent, se simplifient, s'abétifient. Hein, je suis le premier à le dire, hein, parce que j'insiste. Hein, je suis aussi un être culturel. Hein, c'est le propre de l'homme, nous sommes aussi des êtres culturels. Hein. Eh bien, les sociétés multiculturelles nous empêchent d'être cela pour nous ramener à l'appartenance primaire, hein, la religion, la race. Hein.
On va finir sur ces mots, François Bousquet, mais on vous réinvitera bientôt de toute façon pour parler de votre dernier livre. On vous en dira plus dans quelques jours, chers auditeurs. Mais en tout cas, voilà, on finit quand même avec ce constat, c'est que la Nouvelle-France, après avoir investi encore une fois des zones géographiques, investit maintenant le terrain politique, et d'ailleurs plus seulement en tant que qu'électeurs, mais même en tant qu'on retrouve des candidats, des élus. Donc c'est un phénomène quand même à suivre de très près. Et donc on ne manquera pas de vous réinterroger là-dessus, François Bousquet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour décrypter tout ça. Et je vous souhaite une bonne journée.
À vous aussi. Merci, Lislotte.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite avec Lislotte Dutreuil.
Merci beaucoup, chers auditeurs, d'être avec nous ce matin. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. J'ai 10 secondes pour vous rappeler que tous les entretiens que nous faisons ce matin seront à retrouver sur YouTube dans la journée, si jamais vous en avez manqué une partie, par exemple. Dans 10 minutes, on retrouve Régis Le Sommier pour son analyse. On repartira un peu du côté de l'Iran, mais tout de suite, c'est la chronique de David Engels.
Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.